Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Dernier week-end de l'équipée sauvage, les meilleurs moments avec Mathieu Noël et sa bande. Alors, Eva Rock, bien sûr, pour commencer, sa complice, l'invité d'honneur pour découvrir un petit peu plus une personnalité, les journalistes d'Europe 1 qui s'affrontent pour décrocher le titre de chroniqueur du jour en nous proposant leurs meilleurs sujets. Alors, pour cette première heure, on vous dira pourquoi et comment le Covid a dopé les inégalités de revenus et de patrimoine. Au programme également de l'insolite sur la route des vacances, on parlera des filles à chat. Premier tour d'horizon de ce qui nous attend pour la rentrée littéraire, mais pour commencer, eh bien l'entretien de Mathieu Noël avec ses invités de lundi, un binôme de comédiens, Michael Youn et Arnaud Ducret.
Pour fêter cette dernière semaine, il nous fallait la crème de la crème des plus formidables invités possibles. Avec Eva, on a tout de suite pensé
Brad Pitt et Woody Allen.
Ça a failli se faire, mais finalement, c'est Michael Youn et Arnaud Ducret qui sont avec nous cette après-midi.
C'est pas mal quand même.
Bon, c'est même mieux, on peut le dire. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'ils sont les Brad Pitt et Woody Allen français. Bonjour messieurs.
Et Michael Allen. Michael Allen.
Oui, mais c'est parce qu'il mange beaucoup d'oignons.
Divorce Club, c'est l'Arlésienne du cinéma français. Film encensé au Festival de l'Alpe d'Huez. Un film dont on parle depuis des mois qui devait sortir en mars dernier. On va enfin pouvoir le découvrir dans quelques jours, le 14 juillet. Alors déjà que nous, on n'en peut plus. J'imagine pas l'état de nervosité dans lequel vous êtes, Michael Youn, réalisateur de ce film.
Oui, c'est vrai que là, ça fait un peu long pour accoucher. Hein. Ça fait plus de 6 mois. On aimerait bien qu'il sorte.
On voit la tête, madame.
Avec Arnaud, on a l'impression que sur ce film, on est en promo depuis 2016.
C'est la plus longue promo de l'histoire du cinéma.
Je ne sais même plus qui a joué avec nous. Qui était dans le film?
On a même plus l'âge des personnages, c'est pour vous dire. Hein.
Alors, mais si on va parler de cette comédie extrêmement réussie, grâce notamment à la performance du formidable, de l'épatant, de l'invraisemblablement doué Arnaud Ducret, pourquoi cette Merci. Accumulation de superlatifs? Eh bien, dans le métier, on appelle ça un renvoi d'ascenseur, rapport aux propos d'Arnaud la dernière fois.
Vous savez que j'adore votre émission, je vous écoute tout le temps.
Et bien voilà, on va donc parler de
Divorce Club. J'avais une tête de déprimé, mec. Enfin, j'avais une voix de déprimé.
Ouais, c'était le confinement. Ouais. Oh la vache, c'était.
On j'adore était... votre émission, je vous écoute tout le temps, ça me met vraiment de bonne humeur.
C'est donc un tandem attachant et talentueux qui nous accompagne cet après-midi, car j'ai dit ce que je pensais d'Arnaud Ducret à l'affiche de Divorce Club le 14 juillet, mais que dire de Michael Youn, le réalisateur de cette comédie? Un virtuose de l'humour, pour moi c'est bien simple, c'est le Orson Welles du LOL, le Hitchcock du PTDR, quelqu'un en tout cas qui a un goût très sûr puisqu'il déclarait la dernière fois à ce micro.
Moi je ris beaucoup, hein. Si toutes les émissions pouvaient être comme ça.
Ah, j'adore nos invités aujourd'hui. Alors,
lâche-cul.
Ouais, mais j'étais déprimé, moi je pensais, je savais pas ce que je disais.
Alors, moi j'étais content.
Divorce Club, tout le monde en parle depuis longtemps, c'est votre meilleur film, Michael Youn. C'est celui dont vous êtes le plus fier.
Si c'est vous qui le dites.
Non, c'est pas moi qui le dis.
Non, je suis content à chaque fois. Enfin, en tout cas, les films que je réalise, je suis content à chaque fois que je les sors, forcément.
Mais évidemment, mais celui-là, il a peut-être un petit truc en plus. Là, on va quand même. Quel nombre d'entrées vous ferait plaisir? Je suis sûr que quand vous vous endormez le soir, vous y pensez, vous
déjà,
pensez.
Déjà, si peu de pas y avoir de deuxième vague tout de suite. Voilà. Non, mais je vais rester là-dedans.
Ceci dit, il sort quand même. Non, ça va être, c'est assez incroyable parce que c'est vrai qu'on devait sortir en mars, il y a la pandémie. Bon, voilà. Donc tout est décalé. Est-ce que tout d'un coup, les planètes vont s'aligner pour ce film, pour nous, pour nos carrières? Bon, voilà, c'est enfin la mienne, tu vois. C'est celle de Michael, elle est déjà faite, hein, il n'y a plus rien à faire. Lui, il est terminé, lui. Mais voilà, non, c'est vrai que ça serait peut-être. Ça se trouve peut-être pandémie pour le film, peut-être.
Non, dis pas ça.
Non,
on aurait vraiment préféré sortir le 25 mars, hein, ouais. C'est sûr.
Bah, cela dit, ce qui tombe plutôt pas mal, c'est que les statistiques des divorces sont en augmentation à la sortie du confinement. Là, on est pile dans le thème. Hein,
On sent qu'il y a eu 2 mois un peu compliqués pour certains. Et d'aller voir une comédie qui vous parle de ce que vous avez vécu chez vous, peut-être que c'est pas mal.
on donne l'histoire pour les gens qui n'auraient pas suivi la promo de ce film qui dure depuis bien dans 6 mois. Ouais. Vous interprétez Ben, vous êtes un agent immobilier, vous êtes fou amoureux de votre femme. Et alors que vous apprêtez à fêter les 5 ans de cette relation, vous découvrez publiquement, de façon assez humiliante.
Horrible, très humiliante.
Qu'elle vous trompe. Ouais. Est-ce que tout ça est inspiré de faits réels, de choses vues, de choses vécues peut-être?
Il y a des choses vécues, effectivement. Moi, j'ai découvert, par exemple, en couverture d'un magazine People, que j'étais pas le seul homme de ma femme. Donc c'est vrai que c'est des choses qui vous nourrissent après quand vous avez envie d'écrire une comédie. Et en l'occurrence, le personnage d'Arnaud après va croiser son ami d'enfance qui lui dit, parce que donc Arnaud va devoir divorcer. Et son ami lui dit, mais tu vas voir, le divorce, c'est la plus belle chose au monde, c'est la plus belle chose qui pouvait t'arriver. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Voilà.
C'est ce que vous aurez voulu vivre quand vous avez vécu votre.
Oui, non, mais moi, souvent,
vous avez aimé rencontrer François-Xavier de Maison.
Non, mais
ce
souvent, je suis le pote qui téléphone à ses copains quand ils se font larguer et qui les emmène jusqu'au tréfonds de la nuit.
Hein.
Je vous rassure, je suis un peu le François-Xavier de Maison, mes amis. Ouais.
Arnaud Ducré et Mickaël Youn sont avec nous sur Europe 1.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1.
C'est un binôme de comédiens qu'on reçoit cet après-midi dans l'équipée sauvage, dont un, Mickaël Youn, souffre d'un syndrome, le syndrome Scottie Pippen. Du nom du génial ailier qui jouait aux Chicago Bulls en même temps, et donc dans l'ombre de Michael Jordan, Mickaël Youn, c'est pareil. Et à chaque fois qu'il vient, il commet l'erreur de venir avec quelqu'un d'encore plus drôle que lui, comme Sylvie Testu la dernière fois qu'il nous avait imité Eddie Mitchell.
Ils ont eu du bol que je leur fasse pas Brassens, hein.
Voilà Sylvie Testu hier, Arnaud Ducré aujourd'hui, qui va peut-être nous faire qui c'est Brassens version beatbox. Du coup, Mickaël, vous faites voler la vedette à tous les coups. Rappelons que vous êtes, il y a une hiérarchie dans l'humour, vous êtes le réalisateur de Divorce Club. Arnaud ne fait que jouer dedans, oui, humblement, sous votre direction hitchcockienne. Divorce Club sort le 14 juillet. Est-ce que c'est vrai que les hommes, ou les femmes d'ailleurs, tout juste divorcés, font peur aux autres, à leurs amis?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous venez de divorcer, en général, les nanas de vos potes veulent pas que vous fréquentiez vos potes.
À juste titre.
Parce que vous les emmenez, en général, dans les boîtes à cul.
Des boîtes à striptease. D'ailleurs, le personnage le dit. Il dit, ouais, je vais dans les boîtes à striptease, mais avec des mecs mariés.
Oui, nuance.
Est-ce que vous savez si, peut-être vous avez des retours, comme vous faites la promo depuis longtemps, est-ce que ça existe, un divorce club? En tout cas, ce principe.
Non, non, non. En tout cas, on a un peu fait la tournée.
Ça
va
pas les clubs échangistes.
Ça compte pas, ça compte pas.
On a fait la tournée de toutes les popotes en France. On a présenté le film un petit peu partout. Et à chaque fois, on nous a dit c'est dommage que ça n'existe pas. Donc peut-être qu'on pourrait faire une start-up.
Je suis de retour. J'ai fermé la baguette. J'ai fini de faire l'amour et j'ai ouvert une start-up.
Parce qu'évidemment, le divorce club est mixte. Hein. C'est tout l'intérêt de
sinon,
la question.
Ça n'a pas d'intérêt. Arnaud, votre personnage Ben se fait un peu du mal en allant sur les réseaux sociaux pour un peu espionner son ex. Ouais. Parce que dans la vie, dans la vraie vie, qu'est-ce que vous feriez, vous? Vous seriez du genre à vous désabonner du compte ou à suivre?
Je ne fais pas ça, moi. Je déteste ça. Je connais,
vous voilà, coupez les ponts.
Ah ouais, d'aller voir. Tu fais trop de mal.
Vous avez appuyé pile là où ça fait
non,
mal.
Non. Non, parce que.
Livrez-vous, je suis Mireille Dumas.
Non, mais c'est, je trouve que c'est justement, tu le fais hyper mal avec les réseaux sociaux, tu vois ton ex en teuf ou des trucs comme ça, tu regardes,
c'est terrible.
Tu vois ton ex avec d'autres mecs,
tu vois comment le gars il est gaulé, c'est pas possible.
Et vous, Mickaël, vous regardez ou pas?
Oui, parce que vous.
Moi, je suis un peu plus friable que monsieur Ducré.
Ah, voilà, t'as fait sortir qui a fait mal.
Mais moi, carrément, je me désabonne. J'efface le numéro de téléphone de ma liste, je fais des trucs d'ado, quoi. Non, c'est bon, j'aurais plus ton numéro, comme ça je peux pas te déranger à 4h du matin en disant je peux pas dire j'ai toi.
Oh là, qu'est-ce que ça.
Salut, tu fais quoi? Il est 4h, je dors. Ah bon? Donc je passe pas.
Ah non, tu passes pas.
C'est la voix de 4h du matin que Arnaud a dans le film. Hein.
Ouais, la voix un peu comme ça. Elle se croise, c'est trop envie de baiser. Parce que voilà, ils disent pas chez toi, mais c'est ça, j'ai trop envie de baiser.
C'est le sous-titre.
Je ne peux pas, je dois te baiser, je vais. C'est maman, donc tu raccroches, tu t'es trompé de numéro. Oh, excuse-moi, je t'aime, maman.
Vous le faites hyper bien, le mec bourré.
C'était sa meilleure imitation de Benjamin Griveaux.
Dans le film, vous faites super bien le mec bourré. Est-ce que là, on voit où vous le faites, vous êtes agent, là, on peut le dire, on est sur Europe 1.
Ah, bah ça, là, je suis arraché.
Non. Mais est-ce que dans le film, vous avez bu un petit peu, pas du tout? Quand vous jouez le mec bourré, vous êtes.
Et non, mais la scène dure 20 minutes. Donc 20 minutes de scène bourrée, ça veut dire à peu près 7 ou 8 jours de tournage. Il a déjà fait 7 ou 8 jours bourré, mais c'était en vacances.
Oui, voilà, c'est là que tu penses au film porno. Tu dis quoi? Ça fait 7 jours que je suis sur le truc. Je n'en peux plus.
Non, c'est une très très grande performance de la part d'Arnaud. Moi-même, j'étais et Dieu sait qu'il en faut beaucoup pour me surprendre en comédie. Il m'a tordu, quoi. Il m'a scié. J'étais client. C'était très difficile d'arrêter.
On a bien rigolé.
On a ri.
Mais alors, justement, vous avez rigolé en dehors des scènes, parce qu'on dit souvent pour faire une bonne comédie, il faut être en fait hyper sérieux en amont. Donc
dans la prise, on était. Bah moi, le plus sérieux possible. Mais moi, j'avais beaucoup de chance parce que quand je fais le mec bourré, je suis en bout de table. Et j'ai mes deux camarades, Charlotte Gabrys, formidable, et Caroline Anglade, pareil, toutes les deux sont extraordinaires, on s'est éclatés. Et j'ai toute l'équipe. Et j'ai Mika qui est derrière, et je vois Mika qui
est. on travaille sérieusement, mais ça nous empêche pas de prendre du plaisir et d'apprécier la performance que le comédien livre en face de nous.
Dans la prise, ouais.
Divorce Club sort enfin le 14 juillet,
c'est Mickaël Youn. En tout cas,
on est content depuis le temps qu'il devait sortir, de ne pas sortir en même temps que Le Père Noël est une ordure, parce qu'on était sur le même. Et en fait.
Et oui, parce qu'on a commencé en 1983.
Voilà, c'est vrai. C'est vrai.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Mais oui, le meilleur de l'équipe est sauvage avec Mathieu Noël, Eva Rock et à présent Nicolas Caro pour un premier tour d'horizon de ce qui nous attend pour la rentrée littéraire. C'était le 26 juin dernier sur Europe 1 en présence du sociologue, écrivain et conférencier Frédéric Lenoir, venu nous parler de son livre.
Vivre dans un monde imprévisible, c'est le titre du livre de notre invité Frédéric Lenoir. C'est aussi un manuel pour nos journalistes qui ne savent pas s'ils seront reconduits ou pas l'année prochaine.
Résilience.
Et justement, vous dites, page 42, une des qualités qui peut le mieux nous aider à nous adapter à une situation douloureuse subie, c'est l'humour. Alors, l'humour, lui, justement, n'en manque pas. L'humour, l'esprit de tout ça, notre deuxième concurrent ne manque pas. C'est même, comme le disait ma grand-mère, un fiefé déconneur, un as de la galéjade. Car oui, Nicolas Caro, ce n'est pas qu'un amoureux des lettres, c'est aussi un camarade joyeux, toujours de bonne composition lorsqu'on le vanne sur son nom. Même si ses moqueries patronymiques ont eu, vous allez l'entendre, un impact sur sa vie.
N'empêche, à cause de ça, je peux pas mettre de chemise à carreaux, moi, alors que j'adore ça.
T'en mets jamais ?
Bah non, si j'en mets, j'ai au moins 10 collègues qui vont faire « Ah, la chemise à carreaux !» L'histoire de ma vie.
Mais je l'aime bien ta vie.
Moi je dis pareil péripétie, ça se raconte
pas
dans un livre, une
histoire
de la biographie, vous.
Et quand le prof disait tenez-vous à carreau au lycée, j'avais au moins 4 copains qui se ruaient sur moi.
Non mais Nicolas, on est d'accord que c'est vrai votre histoire de chemise à carreaux, vous mettez
oui, c'est
jamais.
Vrai. J'ai des blagues d'entreprise.
Et moi, j'aurais même moi, voilà, qui ai vraiment un humour pourri potage là-dessus,
on
j'aurais jamais
pas
pensé
faire,
en voyant une
sûr,
chemise à carreaux à faire une vanne sur votre nom. Vous avez déjà subi ça?
Ah ben systématiquement.
Oui, mais alors maintenant, je vais y penser à chaque fois.
Alors c'est aujourd'hui, malin. Nicolas, c'est un exercice particulier que je vous ai demandé, c'est de nous parler des pépites de la rentrée littéraire. Mais c'est fin août, la rentrée littéraire. Vous avez accès déjà à ces livres-là?
Et oui, et ça s'annonce très bien. Il y a beaucoup de belles choses à venir. Vous n'allez jamais me croire déjà, mais il y a un nouveau roman d'Amélie Nothomb.
Non, il y a au moins 10 ans qu'elle n'avait pas écrit. Oh, c'est fou ça.
Chez Albin Michel. Non. Il s'appelle Aérostat. Un aérostat, c'est un zeppelin en fait, les ballons dirigeables. C'est l'histoire d'Ange, Ange d'Aulnoy à Bruxelles. Elle est étudiante, elle a 19 ans, elle essaye de gagner un peu d'argent. Alors elle passe une annonce pour donner des cours et elle se retrouve avec Pi, 16 ans, dyslexique et fascinée par les aérostats. Et aux surprises, elle arrive à lui faire lire les plus grands textes de la littérature. C'est un roman sur la transmission et l'amour de la littérature, les aérostats, chez Albin Michel, le nouveau Amélie Nothomb.
Donc voilà. Amélie Nothomb qu'on adore, on le sait, c'est tous les ans. Une nouveauté, une surprise de la rentrée littéraire peut-être?
Alors, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est son troisième roman, il est moins connu qu'Amélie Nothomb, c'est Miguel Bonnefoy. On le connaissait pour Le Voyage d'Octavio et Sucre Noir, voilà. Cette fois, il revient avec Héritage chez Rivage. Et alors, je peux vous dire qu'on va en entendre parler de ce livre.
Il
notez
se trompe
ça, gardez
Nicolas
la bande.
Ouais.
C'est un roman d'aventure, un roman historique, d'amour, une fresque emmenée par un style poétique et délicat. Tout ça en à peine 200 pages. C'est hyper dense. C'est le fils spirituel de Garcia Marquez. Il y a du réalisme magique dans son œuvre. Vous savez, ces moments où la réalité se déforme un petit peu par la poésie. C'est un Français qui part du Jura et émigre au Chili. Il emporte avec lui des pieds de vigne. Sur place, on est au 19e siècle. Sur place, il est rebaptisé Lonsonnier par les services d'immigration à cause de Lons le Saunier. Et on suit les différentes générations qui se succèdent jusqu'à la dictature de Pinochet. C'est virtuose. C'est vraiment une fresque ramassée comme ça.
Des nouvelles d'Alice Zénitaire aussi.
Oh,
mais oui, on se souvient de L'Art de perdre, surtout Eva.
Non, mais c'est bien de savoir
Goncourt.
Qu'elle a reçu pas le Goncourt,
non,
mais elle a le prix.
J'adore cet auteur.
Prix Goncourt des lycéens, c'est encore mieux que le Goncourt. Elle revient avec Comme un empire dans un empire chez Flammarion. Deux destins différents qui se croisent. Antoine, d'abord, un jeune type assistant parlementaire qui perd ses illusions en fréquentant le milieu politique. Et elle, une hackeuse, c'est un roman sur l'engagement, les désillusions et les alternatives éventuellement politiques. Des nouvelles aussi de Carole Martinez chez Gallimard, avec les roses fauves. Vous vous souvenez peut-être de Cœur cousu, qui avait eu un joli succès. Cette fois, c'est l'histoire de Lola, une femme solitaire qui cultive son jardin tranquillement. Et dans l'armoire de Lola, il y a quelque chose qui fait le sel de ce roman. Selon une vieille coutume andalouse, quand une vieille femme se sent mourir, ça va intéresser Frédéric Lenoir, quand une vieille femme se sent mourir, elle écrit ses secrets et elle les cache dans un cœur en tissu qu'elle brode. Elle le transmet à sa fille qui a interdiction de l'ouvrir, mais qui devient un peu le gardien de ce cœur brodé. Ça, c'est une vraie tradition. Et donc, vous avez compris que dans le roman, dans l'armoire de Lola, il y a des cœurs brodés et des secrets interdits. On va évidemment découvrir.
Un petit dernier pour la route, pour Eva.
Mais oui, je vous en ai déjà dit un mot rapidement il y a quelques semaines, mais on attend Colson Whitehead, double prix Pulitzer pour son roman de 2017 Underground Railroad, et maintenant pour Nickel Boys, qui paraît en France à la rentrée, l'histoire d'Elwood Curtis, un chouette garçon, intelligent et tout. Il est noir, il doit intégrer une belle l'école, mais il est victime d'une erreur judiciaire et il rejoint une maison de correction, la Nickel Academy en Floride. C'est encore un roman basé sur une histoire vraie. La Nickel Academy a existé, elle a été l'objet d'une enquête, elle est fermée maintenant, mais elle a été l'objet d'une enquête pour des sévices que le personnel infligeait aux gamins. Et le livre est brillant.
Oui, donc, parce que celui-là, vous l'avez déjà lu.
Ah oui.
Et ouais. Il l'a lu en anglais, car
non,
monsieur est polyglotte.
Sur épreuve.
Ah, sur épreuve. Ah, vous ne lisez pas en anglais.
C'est quelle langue,
ah, c'est
ça
décevant,
si je lis
ça
en anglais, quand,
ah,
j'ai, quand je relis les classiques que j'ai déjà lu en français.
Il y a eu une vanne sur laquelle on reviendra plutôt demain. Merci beaucoup,
enfin,
Nicolas
lundi,
Caron.
Si vous voulez bien, parce
lundi,
que demain,
oui,
je ne viendrai pas.
Non, demain, venez, venez, on
ah,
fait
bon,
une émission.
D'accord, okay.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage, c'est beaucoup de bonne humeur, plein d'infos et surtout une compétition avec Mathieu Noël et Varoc, un invité d'honneur et les journalistes d'Europe 1. Alors place maintenant au sujet d'Ève Roger qui a choisi cette semaine de nous parler des filles à chat. Et oui, beaucoup de jeunes femmes trentenaires, célibataires, urbaines ont choisi un chat et on vous dit pourquoi.
Emmanuel Devos est notre invité d'honneur cet après-midi. Emmanuel Devos, que vous allez filer retrouver en salle dans Les Parfums ce soir, car je vous rappelle que les cinémas sont ouverts. Ça y est, et justement, cher Emmanuel, notre troisième prétendante au titre de chroniqueur du jour partage au moins une de vos deux passions, puisqu'elle déclarait la semaine dernière
se faire des baisers et même baiser tout court, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie avec le cinéma.
Ève Roger, aucune de vos deux passions n'est au cœur de votre chronique du jour, puisque vous nous parlez des femmes à chat, des jeunes femmes à chat.
Oui, une fille à chat. Moi, j'ai découvert il y a peu ce concept parce qu'à côté de moi, à la rédaction, il y a une jeune fille de 27 ans qui s'appelle Angèle Châtelier, vous connaissez, qui a un chat. Et j'ai découvert encore plus médusé que c'était une tendance qui n'existait pas du tout à mon époque. Moi, j'ai 50 ans. Et quand
vous
on
avez
avait
50 ans? Mais non. Mais... vous n'avez pas 50 ans. Mais non.
Mais non, vous vous êtes mariée l'an dernier.
En
et
plus.
Alors, je me suis mariée à 50
oui,
ans.
Oui, oui.
Mais comment c'est possible que vous ayez si jeune et que j'ai l'air si vieux? Ouais. C'est vraiment mais une injustice,
c'est ça,
quand
en
même,
fait,
biologique.
C'est que vous faites vraiment beaucoup plus vieux que votre âge.
Mais c'est vraiment mon problème.
Nous digressons.
Nous digressons trop loin. Allons-y.
Non, mais vous avez découvert une tendance de jeunes trentenaires
qui ont des trentenaires qui ont toutes des chats. Mais je vous promets qu'à mon époque, ça n'existait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes femmes, souvent intelligentes, jolies et branchées, et ben c'est là où ça devient compliqué. Une partie de la population masculine les regarde de travers. Vous allez l'entendre, c'était lors d'un dîner de service qu'on a fait la semaine dernière. Il y avait Angèle, donc, avec son chat. Et vous allez entendre la conversation. Et ça tombe bien que Mathieu Charrier soit là, puisqu'il était là.
Ça va retomber dessus, cette
avec
histoire.
Et vous allez comprendre le problème.
On te dit notre ressenti. Moi, t'arrives voilà. Chez une femme, une trentenaire, qui a un chat. Et ben, tu te dis, oh là, il n'y a pas de place.
Le chat prend une place toujours très importante
mais
dans
oui.
un foyer.
Mais tu peux pas demander à une femme célibataire d'avoir un placard qui... vide pour un homme qui arrive. Enfin, dans ces cas-là, je comprends pas ce que vous voulez dire.
Donc, vous avez compris.
Mais vous êtes complètement fous, les garçons.
Les femmes célibataires.
Surtout, c'est complètement fou, c'est qu'on a quand même.
C'est ça, en plus, ils se comparent au chat. Elle a raison, Emmanuel Devos.
C'est ça.
C'est fou.
C'est ça. Et
bah
donc,
non, celle qui a un enfant, qu'est-ce qu'elle doit
mettre?
Et donc, on est parti de ce concept de fille à chat. C'est donc, elle pourrait vite passer à vieille et gris, folle et méchante. Et les Anglais ont une expression pour dire ça. Ils disent the crazy lady cat.
Donc, les filles à chat, ça existe. Ça,
et
déjà,
bah oui, c'est, et bah c'est une expression anglaise pour désigner les vieilles dames qui finissent leur vie avec des chats, évidemment, seules et malheureuses. Mais certains ont cherché à déconstruire ce stéréotype, qui en fait est un stéréotype sexiste et misogyne. Personne ne parle d'homme à chat ni de mec à chat.
Et il y en a aussi.
Il y en a aussi, mais il n'y a pas d'expression pour les désigner. Hein. C'est
non,
plutôt des...
au contraire, si t'es un mec et t'es un chat, c'est plutôt bien vu par la meuf qui arrive chez toi.
C'est un intellectuel mystérieux.
Oui. Moi, j'écoute Mozart en caressant mon chat. C'est bien ça.
Exactement. Mais donc, c'est Nadia Dame, la féministe, qui a essayé de déconstruire ce stéréotype. Et c'est là où j'ai trouvé intéressant. C'est qu'en fait, les femmes sont plus associées au chat que les hommes. Tout simplement parce que ce sont elles qui s'occupent depuis toujours du foyer. Et il y a des siècles de ça, qu'est-ce qu'on mettait dans les cuisines pour chasser les rats et les souris? Des chats. Et c'est les femmes qui s'occupent de ça. Tandis que les hommes, les messieurs, ils sont dehors avec un chien. Ouais, ils font
chasse.
Des activités. Voilà. Exactement. La chasse et la sécurité. Et puis il y a la courbe démographique aussi, qui n'est pas en faveur des vieilles femmes à chat, puisqu'effectivement, l'espérance de vie des femmes est plus longue que celle des hommes. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de vieilles veuves qui, effectivement, prennent des chats pour tromper la solitude.
Et donc, vous nous dites, même si je ne suis pas d'accord, que ces stéréotypes continuent de coller à la peau des jeunes femmes aujourd'hui.
Oui, si vous voulez, on pourra poser la question non, à Mathieu Charrier.
Mathieu Charrier qui est un rustre.
Elles ne peuvent pas avoir un chat sans qu'on les soupçonne de ne pas vouloir d'homme à la maison. D'avoir comme si elles avaient renoncé à l'amour. C'est une façon en fait de montrer du doigt les femmes célibataires en leur disant c'est pas normal d'être seule. Et c'est tellement pas normal. D'ailleurs, tu vas être punie, tu vas finir vieille fille et tu vas sentir le pipi de chat. Alors, vous allez entendre une jeune graphiste qui s'appelle Kat Sass, qui vient de publier un livre chez First, et qui s'appelle « Moi, je préfère les chats ». Et enfin, on va comprendre avec intelligence pourquoi les trentenaires d'aujourd'hui aiment les chats.
Écoutez. On est dans une génération où on nous dit beaucoup de faire énormément de choses très vite. Tout est pressé, tout est urgent et on prend le temps de rien. Moi, mes chats, ils me forcent à me reposer un peu plus, à me recentrer un peu plus sur moi. Je crois qu'il n'y a rien de plus reposant et de plus apaisant que d'avoir un chat qui ronronne sur soi.
Mais voilà, ouais, on ralentit le
un
temps.
Un chat, ça vomit aussi à 2h du matin et ça vous réveille. Et
non, mais vous entendez argument qui est tellement intelligent de ralentir le temps grâce au chat. C'est comme un support de méditation en réalité. Et c'est beaucoup plus intéressant que les remarques sexistes de Mathieu Charrier.
Et on peut être célibataire sans chat.
Comme vous, Eva, c'est un petit message que vous lancez, un petit appel.
Non, mais c'est juste un constat.
Et si je vous offrais un chat pour
la dernière? Non, alors surtout pas.
Voilà. Ça serait bien.
Non, oui. Ni Miam, ni quoi que ce soit.
Vous n'aimez pas mon chat Miam?
Je l'aime beaucoup chez vous.
Elle est adorable.
Mais pas chez moi.
Emmanuel Devos, est-ce que vous avez un animal de compagnie?
Attention.
Non, parce que j'aimerais bien avoir un chat et un chien, mais mon chéri est allergique.
Aux deux?
Aux deux.
Non, mais ça, c'est une... il vous arnaque, là.
Non, parce que lui-même aime beaucoup les chats et les chiens, mais voilà. Non, pas de... J'ai des enfants.
Soyez, c'est un moindre mal.
C'est plus propre.
Ça dépend. Lesquels? Merci, Eve Roger.
Europe 1, 16h-18h, L'équipée sauvage.
Vis ma vie de patrouilleur sur l'autoroute du soleil. C'est le sujet coulisses vacances proposé par Frédéric Michel au programme des anecdotes insolites survenues chez certains vacanciers sur la 8 entre Aix et Nice. C'était donc dans l'équipe et sauvage ce jeudi sur Europe 1 avec Mathieu Noël, Eva Roque et l'invité d'honneur Olivier de Benoît, de retour sur scène en octobre prochain. Son dernier spectacle est consacré aux joies de la paternité.
Si vous envisagiez de faire un enfant dans les mois qui viennent, un conseil. Regardez quand même le dernier spectacle d'Olivier de Benoît d'abord. Votre aîné a 15 ans, vous nous avez
dit. Oui, exactement, 15 ans.
Donc là, on est dans l'adolescence. Est-ce que vous êtes du genre à la fliquer un peu sur les réseaux
sociaux?
Non,
mais je découvre là pour la première fois, depuis il y a quelques jours, j'ai découvert les premières blagues de. Ma fille me dit samedi dernier, je vais faire un pique-nique aux Invalides. Et j'avais cette phase. Moi, j'étais dans ma tête, un petit carré avec. On prend un sandwich, on récite des poèmes.
Vous êtes mignon.
C'était le projet X, voilà. C'est-à-dire que voilà. Donc là, j'ai compris qu'on avait changé de dimension. Voilà. Fini de choupi en russe sur YouTube, parce que c'est le premier qui sort. Bienvenue au projet X. Voilà.
Voilà, il va falloir que je mette un bras.
Pardon?
Choupi en russe, c'est vrai.
Tu l'as aussi, choupi en russe, vu 500 millions de fois, parce que les mômes le regardent 50 fois par jour.
Les mômes sont formidables. En tout cas, mon conseil pour la plus grande, si elle a 15 ans, ne l'envoyez pas sur la Côte d'Azur cet été. Elle risquerait d'y croiser Frédéric Michel, notre correspondant à Nice. Type bizarre, écumant les bars de Jouan-les-Pins et proposant ses services à toutes les jolies pépées, comme il les appelle, qu'il croise.
C'est tout mignon, tout beau, tout poilu.
La nuit, il se lâche un peu, mais le jour, c'est un excellent journaliste. Fred Michel, vous êtes allé à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui patrouille sur l'autoroute du soleil pour assurer notre sécurité.
Oui, sur l'autoroute A8, une route que vous connaissez bien, Eva. Rappelez-vous, vous virez entre Paris et Nice il y a quelques années. Une époque où il y avait encore des agents au péage. Et ils sont de plus en plus rares. Et ces agents en ont vu de toutes les couleurs, notamment des couples dans des positions délicates ou en petite tenue, voire même totalement nus.
Quand des gens en train de baiser en arrivant au péage.
Mais enfin,
Oui, ce n'est pas rare. Mais peut-être pas sur le réseau autoroutier qui vous mène dans votre maison de campagne de Normandie, Mathieu.
Non, j'ai jamais vu.
Plus on descend vers le sud, plus c'est chaud, c'est bien connu.
En Normandie, il faut s'en doudouner.
Je peux aussi vous raconter l'histoire de ces Coréens très attachés à leur déjeuner. En plein été, un patrouilleur est appelé pour sécuriser un camping-car subitement tombé en panne électrique. À son bord, des touristes coréens. Jusque-là, rien d'exceptionnel, enfin pas trop. Sauf qu'à l'heure où le dépanneur est arrivé pour charger le véhicule sur sa remorque, ses passagers étaient en plein déjeuner. Alors on ne dérange pas un Coréen qui mange. Le patrouilleur raconte, il a eu beau appeler les gendarmes, ils n'ont pas voulu interrompre leur repas.
Non.
Lui a rebroussé chemin, mais une fois rentré à son bureau, le patrouilleur va se faire remonter les bretelles. Par qui? Par l'ambassade de Corée qui entre-temps a été alertée par les touristes, sans doute influents dans leur pays. Je pourrais aussi vous raconter de nombreuses histoires d'animaux comme ces touristes affolés qui arrivent au péage et signalent à l'agent avoir vu un kangourou sur la route. Alors, mine étonnée du préposé au péage, mais quelques minutes plus tard, un quart de touristes australiens s'arrête et là, ce sont des passagers qui sont affolés. Leur kangourou s'est bien échappé.
Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus
en vacances. Ils étaient venus en vacances avec leur mascotte qui a profité d'une pause pipi pour faire quelques bonds sur l'autoroute. Et en 20 ans de carrière, Jérémy en a vu bien d'autres, notamment sur l'aire de Cambarette, sur la 8, près de Brignoles.
Des clients qui s'étaient arrêtés faire une pause et ils descendaient en vacances, ils transportaient un chat. Ils sont descendus boire un café. En revenant, ils n'ont jamais pu remonter dans leur véhicule. Le chat était hystérique. J'ai même dû faire appel aux pompiers pour s'occuper du chat. Ah, il était dans la voiture, hystérique. Il n'a jamais laissé remonter ses propriétaires.
Donc Mathieu, Benoît, Eva, oui. Le conseil en voiture, garder en cage ou attacher ces animaux.
Et parfois, les vacanciers au volant ont des comportements improbables, on va dire.
Oui, comme ces touristes de la Sarthe qui ont pris le chemin de la Méditerranée avec, et ce n'est pas une blague, leur bébé installé sur la galerie dans son landau, attaché sur le toit de leur voiture.
C'est pas vrai.
Si, si, on aurait écrit cela dans le scénario d'un film. On ne l'aurait pas cru. Et je ne reviens pas, c'est un classique sur les enfants qu'on oublie sur une aire d'autoroute.
Oui, mais ça,
sa femme,
ça, Olivier,
qu'on laisse aux toilettes. C'est hein, n'est-ce pas, Olivier?
Je vous confirme, ça ne marche pas.
Et on retiendra l'histoire de cet homme. Je me demande si ce n'est pas vous, Olivier, qui a récemment réussi le tour de force d'oublier sur l'aire de Pont de l'Isère, non pas une, mais deux personnes, en l'occurrence, vous l'avez dit, sa belle-mère. Et sa femme.
Oui, c'est vrai. C'est, vrai. C'est ce qui s'appelle brillant. Un brillant
d'une paire de coups, effectivement, c'est bien joué. Merci beaucoup, Frédéric Michel. C'était un papier à la fois clair, brillant et novateur.
Presque comme vous, Mathieu.
Presque comme moi, c'est pas faux, bien vu. Un point pour Fred.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Oui, ce sont les meilleurs moments avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et les journalistes d'Europe 1. Mais l'équipe est sauvage, c'est aussi l'occasion de mieux connaître une personnalité avec l'invité d'honneur. Le 3 mars dernier, c'était Emmanuel Pierra, avocat au barreau de Paris. Dans quelques instants, il affrontera d'ailleurs Eva Rock dans un quiz, se revisiter bien sûr à la sauce Mathieu Noël.
Aujourd'hui, une star du barreau, venue nous présenter un livre d'utilité publique qu'on devrait tous avoir dans notre bibliothèque, La justice pour les nuls. Je ne sais pas d'ailleurs comment je dois prendre le fait qu'il me l'ait envoyé. Bref, c'est un grand avocat qui nous accompagne aujourd'hui. Or, n'oublions jamais qu'avant les avocats, la justice, c'était ça.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Heureusement, les avocats sont là. Bonjour Emmanuel Pierra.
Bonjour Mathieu Noël.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la propriété intellectuelle. On va évidemment revenir aux origines du droit pour mieux le comprendre avec cet ouvrage réédité. Vous me disiez que c'était la troisième édition déjà de La justice pour les nuls. Ma première question est simple. La justice, le système judiciaire, n'est-il pas si complexe qu'il est illusoire de penser que des nuls comme moi pourraient un jour y comprendre quelque chose ?
Ah, d'abord, je suis très content, Mathieu Noël, que vous ayez dit la justice, puis que vous vous rattrapiez juste derrière pour dire l'institution judiciaire. Parce que la justice est un très beau concept, merveilleux, c'est une utopie, mais qui n'existe pas. Ce à quoi nous avons affaire, c'est l'institution judiciaire, le maquis des tribunaux, la réalité des juges, des êtres humains qui nous jugent et non pas des machines et non pas un idéal de la mythologie grecque. Donc c'est très compliqué, effectivement, et le but de ce livre, qui est un livre épais mais qui n'est pas à lire de A à Z, contrairement à ce que d'autres ici dans ce studio ont fait, ont cru devoir faire comme corvée pendant le week-end.
On
peut picorer, évidemment. L'idée, c'est de rendre accessible et intelligible dans cette collection un sujet qui est complexe et auquel on est confronté quotidiennement.
Mais il faut préciser que si vous avez un problème judiciaire, vous aurez toujours besoin d'un avocat. Vous ne vous êtes pas sabordé en écrivant ce livre. Hein. Suffit pas.
Hein. Mais ce n'est pas uniquement pour un plaidoyer pro bono pour acheter des clients dans les cabinets d'avocats. C'est aussi parce que je crois très sincèrement que chaque cas est individuel, qu'à un moment, il faut parler à un spécialiste, un être humain. Vous pouvez lire toutes les encyclopédies en ligne sur les médecines. Malgré tout, c'est votre généraliste quand même qui va vous rassurer et vous dire le bon geste et la bonne chose. Néanmoins, j'essaye quand même de rendre transmissible, non pas un virus, mais une matière qui me paraît opaque et difficile. Donc, si on peut se passer de l'avocat en ville, notamment, et lui poser des questions à table quand je dîne chez quelqu'un, et qu'il peut lire mon livre, sincèrement, ça me fait passer un repas plus sympa.
Il vous aide à vous y retrouver dans le Maquis des Lois. Son ouvrage, La justice pour les nuls, est disponible chez First Edition. Maître Emmanuel Pierra est notre invité cet après-midi sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Il publie La justice pour les nuls. Son métier d'avocat est également sa passion. Ado, devant cette célèbre scène de Star Wars où Darth Vader annonce à Luke
« Luke, je suis ton père. »
Il se disait pas comme nous, tiens c'est ouf, mais ok, si c'est son père alors il a droit à 50% des parts de la SCI, sauf si on apprend ensuite que Léa est sa sœur. Là, sauf que d'ici le dérogatoire et conformément à l'article 212 du code civil, il n'aura que 25% diminué des frais de mutation. Maître Emmanuel Pierra nous accompagne et nous éclaire cet après-midi. Alors, Emmanuel Pierra, est-ce qu'aujourd'hui un avocat est obligé d'être médiatique ? c'est devenu nécessaire. À une époque, c'était peut-être une coquetterie. Aujourd'hui, pour fonctionner, quand on a un grand cabinet d'avocats comme vous, il faut être présent dans les médias.
Oui, moi, je pense qu'il faut parler, en tout cas, en dehors de la salle d'audience. Souvenez-vous, la salle d'audience en France, c'est un endroit incroyable. On ne peut pas y filmer, on ne peut pas enregistrer. On peut y faire des dessins d'audience. Des petits dessins et le compte-rendu judiciaire, la chronique judiciaire qui est souvent faite par les excellentes femmes journalistes, elle est faite le soir dans le journal, sur les marches du palais, à la radio ou à la télé en deux minutes, ou dans un écrit qui vous raconte, vous résume le procès. Donc c'est un endroit où se passent des choses essentielles, mais qu'on ne peut pas filmer. On peut y venir, c'est public. Alors il y a évidemment des échos déformés, parce que si vous ne pouvez pas saisir en direct et si le public ne peut pas suivre en direct ce qu'il se passe, et je ne le reproche pas, hein, je trouve que la sérénité des débats, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas se comporter en fonction de l'angle de la caméra dans un box quand on est accusé ou quand on est en train de plaider, me semble assez rassurant. Mais en même temps, derrière, l'opinion publique, elle parle du procès, elle parle de votre affaire. Les juges font partie de l'opinion publique parce qu'ils déjeunent avec leurs amis, ils parlent avec leurs enfants, ils ont beau essayer de séparer. Donc il faut aussi leur parler quand ils regardent la télévision.
Alors, cher maître, des plaidoiries difficiles, vous avez dû en connaître. Mais dans la séquence qui suit, si vous espérez l'emporter, il va vraiment vous falloir tout donner. Voici le quiz contre Eva Rock. Manuel Pierra, pour ce quiz face à Eva Rock, on va parler de justice.
Je suis déjà fatiguée.
Rien de plus simple, c'est un vrai faux. Une bonne réponse vaut un point, c'est parti. Eva Rock. Dans le Kentucky, en 1996, Larry Ruttman a lancé un boomerang qui lui est revenu dans la tête. Il a intenté un procès contre lui-même pour blessures involontaires. Il a perdu, mais son assurance a été contrainte d'indemniser. Du coup, il a empoché 300 000 dollars. Vrai ou faux?
Il me semble que c'est vrai.
C'est vrai?
Ouais.
C'est faux! Ah, c'était une info du Weekly World News qui est en fait l'équivalent du Gorafi en France.
Ah, je lis ce journal alors. Donc.
Et voilà, et vous avouez, le problème, c'est que vous le lisez au premier degré depuis 2010. D'où un certain nombre d'informations que vous avez données à nos auditeurs qui n'étaient pas correctes. Emmanuel Pierra, dans le Code du travail, si on effectue des travaux salissants, non seulement le temps passé sous la douche doit être pris en compte dans la durée du travail effectif, mais en plus la température de l'eau doit être réglable. Vrai ou faux?
Pour la température de l'eau, je ne crois pas, mais pour le reste, oui, je pense que c'est compensé.
Quelle est votre réponse? C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai, plutôt vrai.
C'est vrai? Oh, vous avez eu chaud, maître Pierra. C'était la bonne réponse. Alors, c'est non. L'article R4228-9, je sais pas comment on dit, du Code du travail. Et, oui,
bah oui, qui prend en compte le fait que vous vous salissez, que vous avez un temps supplémentaire chaque jour, quotidiennement, pour aller vous nettoyer, et qui n'est pas lié à l'hygiène, mais qui est lié à votre travail.
Et alors vous, pour vous,
douche,
vous, mais vous, oui, vous devez nettoyer votre langue avec toutes les...
Avec tout, quoi, toutes les saloperies qui toute la journée.
Lui, il doit nettoyer sa langue avec toutes les saloperies.
Oh, ouais. Oh, mais quelle attaque.
Attention.
Oui, mais c'est pas le métier qu'il salit, c'est lui-même qui est pourri d'intérieur. Allez, hop.
Emmanuel Pierra, je vous fais écouter Boogie Nights du groupe Heatwave.
Ça sent le plagiat.
Et maintenant, je vous fais écouter Off the Wall de Michael Jackson. Il y a une certaine ressemblance. Mais il n'y a pas eu de problème en fait. Pourquoi? 1. Parce qu'ils avaient déjà pompé le morceau sur un autre groupe, du coup ils n'ont pas fait de procès. Ou 2. Parce que le compositeur est le même pour les deux chansons.
Je dirais la 1 parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'était Michael Jackson en composait avec Quincy Jones. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il ait fait également Boogie Nights.
J'aurais répondu exactement ça, Eva.
Moi, j'aurais répondu la 1 aussi.
Oui, et ben on aurait tous eu tort. Le compositeur, moi je pensais que Off the Wall c'était Michael Jackson ou Quincy Jones. Non, c'est le même compositeur, Rod Temperton. On lui doit Thriller, Give Me the Night de George Benson et Stomp des Brothers Johnson. Gloire à Rod Temperton. Eva Rock, attention, vous pouvez peut-être remporter le quiz aujourd'hui. Je ne sais pas où on en est exactement des votes.
Non, j'ai déjà perdu.
Du compteur. Eva Rock, le témoin dans un procès vient du latin testis, qui a donné testicule. Vrai ou faux?
Franchement.
Mais c'est très sérieux, Mathieu Charrier. Question pointue,
de tricher, mais...
devant Maître Pierre.
J'irai vrai.
Elle dit vrai. C'est la bonne réponse. Dans la Grèce antique, un témoin devait jurer en mettant sa main sur ses testicules. Oui. Vous connaissez cette histoire,
Maître Pierre? Oui, bien sûr, parce que c'est de la façon dont ne pouvaient témoigner que les hommes. Et pour désigner, le fait, la virilité, il fallait... Mais on fait ça aussi, on a fait ça pendant longtemps pour les papes. Vous savez, après l'histoire de la pape Jeanne, pour vérifier que le pape était véritablement un homme et pas une femme qui était déguisée. Et donc, on vérifiait les testicules. Pour être sûr du témoignage, entre guillemets, de celui qui allait réincarner la succession de Pierre.
Je reconnais avoir triché.
Vérifier les testicules, c'était le mot de la fin. Qui remporte ce quiz?
Non, c'est Maître Pierra parce qu'il m'a donné la réponse.
Comment ça, vous avez triché?
Mais parce que j'ai regardé dans les yeux Maître Pierra et il m'a fait un petit clin d'œil pour me faire comprendre que c'était vrai la réponse.
Et c'est pas un clin d'œil MeToo, hein. On est d'accord, hein. C'est
attention,
un clin d'œil
attention.
D'aide, de solidarité.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et la compétition continue avec Mathieu Noël, Eva Rock et à présent Axel de Tarlé qui a choisi cette semaine d'évoquer les inégalités occasionnées par le ou la Covid-19. C'était ce mercredi sur Europe 1 en présence de la comédienne Emmanuelle Devos à l'affiche du film Les Parfums réalisé par Grégory Mine, la rencontre improbable d'une grande bourgeoise née de profession et d'un chauffeur loser.
L'Équipée Sauvage est une émission extrêmement compétitive où nos journalistes se tirent la bourre. Un genre de spin-off journalistique d'amour, gloire et beauté, qu'il serait plus juste de baptiser dans notre cas des amours, notoriété relative et beauté intérieure. Mais le milieu du journalisme n'est pas le plus cruel. Le monde du luxe, et notamment celui des créateurs de parfums, peut être cruel aussi. Emmanuelle Devos, vous incarnez un nez dans le nouveau film de Grégory Magne, Les Parfums, en salle. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, vous avez un petit peu enquêté, vous avez rencontré une des plus grandes nées de France pour préparer ce rôle. Est-ce que d'après vous, on peut devenir née sans prédisposition exceptionnelle? Est-ce que ça se travaille ou est-ce qu'il faut, à la base, être doté de capacités olfactives hors du commun pour devenir née?
Non, ça se travaille. Je crois que Christine, par exemple, a un passé de chimiste. Voilà, et puis voilà, elle s'y est intéressée. Mais ça se travaille comme un muscle, comme un. Enfin, moi, je pense que c'est un peu comme des grands musiciens. Enfin, ils font leur gamme tous les jours. Ils révisent, ils ressentent certaines autres, puis ils en apprennent tous les jours un peu plus. Donc oui, il y a quelque chose comme ça de sûr. Un peu surhumain, quoi. Vraiment, ouais. Ce sont des gens exceptionnels.
Face à vous, ma chère Emmanuelle, notre deuxième prétendant au titre de chroniqueur du jour, Axel de Tarlé, qui, s'il était un parfum, serait actuellement Effluve de Loose. Effluve de Loose, le parfum des hommes qui n'y arrivent plus et qui, à force d'enchaîner les défaites, finissent par douter d'eux-mêmes et l'avouer à l'antenne, ce qui est totalement contre-productif, Axel.
Oui, non, et d'autant que là, je vais vous dire, j'appréhende un peu le côté décalé de ma chronique, c'est assez compliqué. Je vais vous dire, moi-même, j'ai pas très bien compris, je vais quand même essayer de maquiller tout ça.
Allez, Axel, faites un effort, si quelqu'un doit croire en vous, c'est vous.
Alors, d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas de fait de sujet en lien avec l'odorat, parce que figurez-vous, et je m'amusais pendant la pub, vous plaigniez les gens qui n'avaient aucun odorat, je n'ai aucun odorat. Ma mère m'a toujours dit, t'as beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup plus de mauvaises odeurs que de bonnes odeurs. Et vous étiez là en train de dire pendant la pub, oh, c'est terrible, etc. Donc, comme je ne parle pas de choses que je ne connais pas, j'ai décidé de ne pas faire ma chronique. Alors, sur l'odorat.
Cette dernière phrase n'est pas tout à fait juste, mais bon, allez-y quand même. Vous avez déjà entendu parler de sujets que vous maîtrisiez à moitié. Hein.
J'ai donc décidé de vous faire une chronique piquetesque, sur les inégalités. Alors, c'est un peu une tarte à la crème que de dire que les inégalités ont augmenté avec le Covid. D'abord, c'est vrai qu'il y a l'INSEE qui l'a constaté, que si vous prenez le premier quintile, comme on dit, là, les 20% au bas des revenus, ils sont beaucoup plus nombreux à avoir déclaré des baisses de revenus parce que souvent, c'était les gens qui sont en CDD, c'est des gens qui ont dû subir le chômage partiel, c'est des gens qui avaient leurs enfants en cantine qui étaient subventionnés, ils ont perdu tout ça. Alors que si vous prenez les revenus les plus aisés, comme on disait tout à l'heure, ben là, c'est les gens qui ont parfaitement fait du télétravail, qui n'ont aucune perte de revenus et qui même ne sont pas partis en vacances, donc ont économisé sur le ski, sur etc. Donc vous avez l'aspect revenu qui a creusé les inégalités entre le haut et le bas de l'échelle. Mais là où c'est pervers, il n'y a pas que les revenus. Il y a aussi les patrimoines. Il y a eu des inégalités de patrimoine. Je m'explique. Vous savez qu'on n'arrête pas de dire que la Banque centrale a lâché 750 milliards d'euros. C'est ce qu'on appelle des liquidités, si vous voulez. C'est exactement comme dans une baignoire, on rajoute de l'eau. Donc on a rajouté de l'argent en circulation dans le pays France. Et vous savez, quand on rajoute des centaines de milliards sur un pays, bah, qu'est-ce qu'ils font ces centaines de milliards? Imaginez les billets, hein. Ils essayent de se loger. Alors, où est-ce qu'ils finissent par se loger? Ils finissent par se loger dans les actifs. Et c'est quoi les actifs? C'est l'immobilier, c'est la bourse. Donc, vous voyez très bien que c'est cette pluie d'argent qu'a fait la Banque centrale pour soutenir l'économie.
Mais c'est-à-dire que ça n'a pas été investi dans l'économie réelle?
Une bonne partie, c'est ce que nous montrent les politiques, les injections de liquidités des banques centrales, une énorme partie termine dans les actifs, d'où la montée de la bourse, d'où la flambée de l'immobilier. Or, qui a de la bourse et qui a de l'immobilier? Ouais, ce sont souvent déjà les hauts patrimoines. Voilà. Et donc, si vous voulez, d'un côté, vous avez eu baisse de revenus pour les plus modestes, comme on dit, hausse de gains en patrimoine pour les plus aisés. Donc oui, ce Covid a aggravé la polarisation. Et il y a une autre polarisation qui s'est aussi creusée. avec ce Covid, ce sont les inégalités générationnelles, puisque là, pour le coup, vous avez des jeunes qui n'avaient rien, mais qui en plus maintenant n'ont plus de perspective.
Oui, on parle de la génération Covid.
Même voilà, on parle de la génération Covid. Et à l'inverse, vous avez les retraités qui, eux, n'ont rien perdu, parce que les retraites sont indexées sur, non pas les salaires, mais sur l'inflation. Donc les salaires peuvent baisser, de toute façon les retraites sont protégées. Ce qui fait que là, ce sont les chiffres de l'OFCE. On avait déjà des retraités qui avaient un niveau de vie supérieur de 5% aux actifs. Et là, on est passé à 10% aux actifs. Alors vous savez qu'au Royaume-Uni et en Suède, ils prennent des mesures. Ils demandent aux retraités
de baisser leur retraite,
etc. Il y a des taxes. Mais vous savez que c'est une idée qui trotte dans la tête de certains gouvernements. Ils veulent ressortir, mais alors ils vont peut-être pas le refaire parce que politiquement ce serait une bombe. Mais cette idée, souvenez-vous,
ils
du début du quinquennat, la CSG, d'augmenter la CSG pour les retraités. Et souvenez-vous de Emmanuel Macron qui disait « Je n'ai jamais pris les retraités pour un portefeuille ». Donc c'est pour ça que politiquement, ça serait difficile de ressortir cette mesure qui avait été tant critiquée. Mais c'est vrai que ce soit au niveau des revenus du patrimoine ou générationnel, malheureusement, ce Covid a creusé les inégalités.
Et donc, ce qu'on attend, ce qu'on a besoin pour solutionner tout ça, c'est une bonne grosse politique de gauche, Axel.
À la Piketty. Alors moi, j'explique. Hein, je n'ai pas le courage d'aller
vous nous donnez les clés pour former notre propre opinion.
Je veux gagner.
On a bien compris que vous êtes passé de l'autre bord. Et je vous félicite, mon cher Axel de Tarlet.
Je peux faire une chronique sur l'odorat, si vous voulez.
Emmanuel De Vos, est-ce que dans le milieu artistique, alors évidemment, le cinéma a été fermé, les tournages ont été arrêtés. Évidemment, vous êtes une des plus grandes actrices françaises. J'imagine que vous n'avez pas été impactée comme les petites mains du cinéma. Ça doit être terrible pour les intermittents qui comptent leurs heures et qui...
Encore que les intermittents, ceux qui ont leurs heures, ils vont avoir la possibilité de... Je crois que pendant 6 mois, ils vont même ceux qui arrivent en fin de droit.
Oui, il y a des mesures,
il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas leurs heures, qui travaillent un peu à côté, qui se débrouillent. Et c'est eux qui vont être très, très impactés, notamment tous les festivals d'été ont été supprimés. Et c'est une manne. Hein. Pendant l'été, les artistes, les techniciens travaillent énormément. Je pense plus pour les gens de théâtre. Après, au cinéma, là, ça redémarre. Ça va redémarrer très vite parce que ça représente trop d'argent. Mmh.
Too big to fail, comme les banques.
Ils veulent repartir. Mais c'est plus pour ces gens-là que ça va être compliqué.
Vous avez eu des annulations de tournage déjà ou simplement
non,
des reports?
Des reports, mais pas des annulations. Non.
On remercie Axel de Tarlet pour cette chronique. En toute honnêteté, comment vous vous êtes trouvé, Axel?
Court, mais bon.
C'est aussi, m'a-t-on dit, l'avis de votre femme.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et l'équipe est sauvage se poursuit juste après les infos de 17h avec Mathieu Noël et un humoriste dont le dernier spectacle est consacré aux joies de la paternité, c'est Olivier Debenois. L'équipe est sauvage, des infos, des découvertes, de la bonne humeur. Bon week-end avec nous sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Place à la seconde partie de l'équipe est sauvage, les meilleurs moments avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et les journalistes d'Europe 1, toujours au service de notre savoir, de notre culture générale et toujours engagés dans une compétition. Objectif, décrocher le titre de chroniqueur du jour. Alors au sommaire de cette prochaine heure, la naissance de l'Empire romain grâce à l'éruption d'un volcan en Alaska. Les Césars, et là on parle cette fois du 7e art, vont-ils mourir? Un sportif belge qui réalise un exploit en ballon sauteur et puis une recette de carpaccio de canard. Bienvenue à vous tous. On va commencer avec l'invité de Mathieu Noël de ce jeudi, Olivier Debenois.
Un humoriste dont le dernier spectacle est consacré aux joies de la paternité. Vous allez voir qu'en termes de cohérence éditoriale, on est vraiment au top, puisqu'hier, on recevait Emmanuel De Vos, qui a peu ou prou la même vision des enfants que notre invité cet après-midi. Emmanuel De Vos, est-ce que vous avez un animal de compagnie?
J'ai des enfants.
Bonjour Olivier de Benoît.
Faudrait pas être plus drôle.
L'humoriste,
c'était hier. L'humoriste d'hier.
Alors, votre dernier spectacle est hilarant. Le petit dernier a été interrompu évidemment par le confinement. Vous y racontez votre quotidien de papa, parfois débordé par ses 4 enfants. Ma première question est simple, je pense que tout le monde se la pose. À quel moment de votre vie vous avez décidé de faire 4 enfants?
Alors déjà, je ne pourrais pas rester toute l'émission parce qu'il faut que j'aille donner un biberon.
M'excuser, que je sois au courant.
C'est quoi les âges de vos enfants?
C'est pratiquement 3, 10, 13 et 15, je crois. Oui. Et c'est vrai qu'avec le confinement, j'ai vraiment compris ce que c'était que d'avoir des enfants.
Et je lance un message d'ailleurs, si c'est possible, c'est qu'en fait, il paraît qu'il y a une génération Covid. Il y a plein d'enfants qui vont naître.
Oui.
Ce qui est dommage, c'est que nous, ceux qui avaient d'enfants, avaient envie de les donner.
Oui.
Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu d'échange.
C'est vrai, on pourrait les échanger sur eBay.
Peut-être
ça serait...
cette émission, peut-être.
On peut lancer un appel.
Tout un appel.
Est... Ici, tout est possible. Hein. Alors, Olivier, après vous être intéressé à votre femme, votre belle-mère et à vous-même, vous évoquez cette fois dans le quatrième spectacle vos enfants. Le spectacle s'intitule Le Petit Dernier. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils prennent cher, vos enfants. Déjà, ils sont pas tous en âge de l'avoir vu, le spectacle, mais ceux qui l'ont vu, ils l'ont trouvé comment ?
Alors, j'ai été obligé de mentir en leur disant que c'était une caricature.
Alors qu'évidemment, c'est juste le quotidien de papa.
Non, mais c'est vrai que c'est un défouloir. Non, mais il y a un truc politiquement correct avec les parents, ou alors tous les parents sont, c'est le bonheur tous les jours, mais en fait, c'est vrai que c'est du sport et il faut en rire, voilà. Donc c'est pour ça que je Donc je raconte un peu, voilà, mes enfants, le petit dernier. J'explique que ça prend énormément de temps, un enfant, de s'occuper des enfants. Et j'ai un chiffre que récent, c'est que, en moyenne, une femme consacre 119 minutes par jour à s'occuper de ses enfants et un homme 49 minutes. Et d'ailleurs, j'en avais déduit que ça voulait dire que les hommes étaient plus efficaces.
Ça, c'est une bonne
forcément
déduction.
C'est vrai. Ce qu'aurait pu faire Mathieu Noël.
Et ce que j'aime bien aussi, parce que moi, je suis suisse, il y a quand même une évaluation du coût que représentent les enfants. Très important, parce qu'on n'y pense
pas.
Non, c'est
pas parce que vous êtes suisse, c'est parce que vous êtes radin. Bon,
c'est possible aussi. Voilà. Je suis suisse et radin. C'est le combo gagnant, comme on appelle ça. Et vous dites, élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 euros. C'est un calcul que vous avez réalisé.
Oui, sûr. Et j'ai dit, effectivement, à mes enfants, je vous file les 50 000 tout de suite et vous partez. Et c'est vrai que. Il y en a un qui hésite encore. Non, mais c'est vrai que j'explique à un moment donné dans le spectacle d'ailleurs les avantages et les inconvénients pour ceux qui n'ont pas d'enfants à avoir ou pas des enfants. Voilà. J'explique que les avantages, par exemple, effectivement, il y a les allocations familiales. Il y a la demi-part fiscale.
Ne l'oublions pas.
Dans les inconvénients, ça pollue. Un enfant,
ça pollue énormément.
Et un enfant de 0 à 18 ans, la pollution, c'est 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Un enfant, moi j'ai 4 enfants, ça fait 400 tonnes
c'est
de CO2.
Plus et qu'un
parfois, Boeing. Parfois, quand ils me saoulent, je leur dis, attention les gars, j'ai fait un petit geste pour la planète.
Quelle horreur.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez l'équipe est sauvage et nous sommes toujours en compagnie de l'humoriste Olivier Debenois qui a su capitaliser sur son expérience de père pour écrire un spectacle assez décapant sur la place qu'occupent nos enfants dans nos vies. Et c'est le moment de l'émission où je passe le flambeau à ma consoeur Eva Rock qui m'a fait part il y a quelque temps de son envie, je cite, d'avoir l'invité pour elle toute seule. Moi ça m'arrange, c'est toujours ça d'interview en moins à écrire. En revanche, pas sûr que l'invité y gagne au change, notamment quand c'est un acteur ou une actrice comme Emmanuel Devos hier, obligé de reprendre Eva assez souvent.
Et je suis fan de Grégory Montel aussi. Et Sergio Lopez en plus.
Sergi.
Olivier Debenois, je vous laisse entre les mains plus ou moins experte d'Eva Rock.
Oliver Debenois. Il paraît que vous êtes accro à l'actu. Est-ce que c'est vrai ?
Ça, c'est vrai.
Mais genre, toutes les chaînes infos, des alertes sur le smartphone.
Non, je passe ma vie sur mon téléphone. Et c'est vrai que je suis absolument incollable.
Et de façon paradoxale, vous ne parlez pas d'actu dans vos spectacles. Vous avez peur de la vanne mal interprétée, de la vanne de trop.
Si j'en fais des vannes, mais les vannes chaudes refroidissent très vite. Donc, si vous voulez, une vanne aujourd'hui sur même le coronavirus, en octobre-novembre, elle sera plus drôle. Donc, vous êtes obligé d'avoir un socle atemporel et vous rajoutez en fonction de l'actu. Mais voilà. Et puis, je trouve que l'actualité est de moins en moins drôle.
Ah oui, ça, on est bien d'accord. Mais on va faire un petit test d'actu, justement, pour voir si vous avez été accro à l'actu ce matin.
Je veux dire, allez-y.
Il va vous défoncer, comme tout à l'heure.
Ouais. Allez-y. Ouais.
Qui vient de prendre la présidence de l'Union européenne pour les 6 prochains mois ?
Waouh ! C'est pas le Polonais.
Ah bah oui, wow.
C'est le Polonais, non ?
Non ?
Ah non,
Mathieu ?
C'est incroyable.
Oui, vous la connaissez très bien.
Comment ça ? Angela Merkel.
Mais oui, évidemment. Ah bon, évidemment. Quels sont les nouveaux produits qu'on va pouvoir désormais acheter dans les Franprix ?
C'est hyper drôle.
C'est
génial.
C'est des nouveaux produits.
J'avais pas été aussi loin. Je lis que ce qui m'amuse. Et je reconnais que.
Moi, ça m'a amusé.
On n'a pas le même humour. Mais si vous savoir qu'on a remis dans les rayons le Schweppes Morito.
Non, vous allez me bénir parce que je pense que vos gamins vont être ravis. C'est que dans les Franprix, bientôt, vous allez découvrir des balles de ping-pong, le bonnet de bain que vous avez oublié, des sacs à dos. Ce sont les produits Décathlon. des produits Décathlon qui vont être désormais vendus.
Est-ce qu'il y aura le masque qui permet
oui,
de
je
voir
pensais, le fameux masque, qu'on a utilisé d'ailleurs pour
dans
des respirateurs.
Mathieu,
mais c'est pas une blague. Ils ont mis ça dans le domaine public et pour faire des respirateurs dans certains pays, etc. Parce que le truc, il s'est exactement. Non, mais je suis sérieux.
Non, c'est vrai.
Merci beaucoup, Fred.
C'est la petite info en plus d'Olivier de Benoît.
Voilà, sur peu informé sur Europe 1.
Dernière question d'actualité.
Merci.
Dernière question d'actualité qui va tous vous intéresser. Quel film culte de 1974 débarque sur Netflix ?
Waouh, c'est génial ces questions. C'est génial.
Un film culte.
Oui, bien sûr.
Culte 74.
Avec une femme.
Lynch ?
Non.
Une femme ?
Ouais, avec une femme, un fauteuil en osier.
Ah, Emmanuel !
C'est marrant hein, comme vous arrivez tout très vite à te retrouver. Alors ça sera interdit au moins de 16 ans, mais enfin bon, sur Netflix, et... attention, ça c'est les parents qui doivent faire gaffe. Mais,
Je pense que les enfants, ils ont vu pire. Hein.
Oui, enfin, oui.
Ils vont trouver ça un peu seul.
Le mien, l'abonnement premium maintenant sur lui.
Mais Emmanuel...
Est-ce qu'il vous fait bénéficier de ces codes ou pas?
Pendant le confinement, c'était gratuit, je crois. C'est ce que tu m'as dit, Mathieu.
Vous êtes bien renseigné, c'est certainement pas moi qui vous ai dit ça.
C'est les infos d'Ève.
Évidemment. Son humour est à la fois corrosif et potache, on peut donc le qualifier de potachosif. Olivier de Benoît, notre invité jusqu'à 18h.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et vous écoutez les meilleurs moments, il est 17h11. Frédéric Lenoir, auteur d'une lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment, on s'en souvient, a pu découvrir le 26 juin dernier la recette d'un amoureux des animaux à sa manière. C'est Olivier Pouls. Allez, on retrouve Mathieu Noël et sa complice Eva Rock.
Aujourd'hui, avec notre invité, le philosophe Frédéric Lenoir, on s'interroge. Faut-il chercher le sens de la vie dans l'action de l'homme ? Faut-il chercher à modifier le monde et son propre destin ? Ou bien, comme nous le disait Nietzsche, faut-il accepter d'embrasser ce qui nous arrive, le fameux amor fati ? La question vertigineuse en suscite une autre chez le philosophe belge Olivier Pouls.
Pouls, est-ce que tu n'amènerais pas plutôt une bouteille de pinard ?
Bonjour Olivier !
Bonjour, c'est de la belle philosophie de vie.
C'est exactement Olivier, mais c'est une belle philosophie que vous nous apportez tous les jours. Et en cette semaine particulière, vous nous vantez les mérites du cru.
Oui, on a mangé cru toute la semaine, on va encore manger cru pour terminer, mais c'est vrai que je vous écoutais tout à l'heure, Frédéric, parler de ce manifeste pour la défense des animaux, et donc j'ai failli ne pas rentrer en studio, parce qu'avec ma recette du jour, j'ai peur de ne pas faire l'unanimité totale.
Heureusement, vous n'êtes pas en compétition.
Non, parce que je vous propose de manger un animal qu'on ne mangerait pas cru spontanément, mais pourtant qui est vraiment délicieux, c'est du canard.
Du canard cru ?
Oui, du carpaccio de canard. C'est délicieux. Alors, un canard bien élevé, hein, Frédéric, rassurez-vous. Libre de mouvement qu'on a aimé tout au long de sa vie, qui était abattu dans les règles de l'art, et qu'on va préparer amoureusement pour lui montrer toute l'affection qu'on a pour lui.
Il pouvait continuer. Ce qu'il vous dit pas, Frédéric, c'est qu'il avait prévu de faire une chronique sur le veau sous la mer. Au dernier moment, il s'est dit non, ça quand même, c'est trop hardcore. On va faire le canard.
Et le carpaccio, on a plutôt tendance à prendre du bœuf. Et moi, je vous engage à essayer avec du magret de canard, c'est absolument délicieux. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le canard n'est pas une viande grasse du tout, en dehors de la couche de graisse qui est au-dessus, mais à l'intracellulaire, dans la viande, il y a très peu de gras. Donc quand on enlève la couche de graisse, on a une viande qui est très maigre. Donc un beau magret de canard qu'on va mettre au congélateur. Une fois encore, je rappelle, c'est plus prudent, notamment quand on mange de la viande crue après. Le congélateur permet de tuer un certain nombre de bactéries. Puis surtout, ça va permettre d'avoir une viande qui sera plus rigide au moment de la couper, alors soit à la trancheuse, soit au couteau. Mais le fait qu'elle soit encore un peu congelée va vous permettre de faire des tranches un peu plus fines, et c'est très important pour notre recette. Et puis avec le carpaccio, il y a la sauce évidemment qui est absolument indispensable. Et l'idée, c'est de faire une sauce là pour le coup un peu plus italienne, l'esprit d'un pesto. Donc beaucoup de basilic, du parmesan, de l'huile d'olive et des pignons de pin. On va bien mixer tout ça. On va étaler ça sur nos tranches de canard. Et alors mon astuce, c'est que les tranches de canard, vous n'allez pas les couper dans le sens de la largeur du canard, mais vous allez les couper dans le sens de la longueur. Et ça va donner une mâche un petit peu différente.
Je serais capable de me tromper.
Ouais. Et même quand vous faites du canard cuit, essayez de le couper dans l'autre sens et vous allez voir, vous avez une mâche qui, je trouve, est plus tendre et plus intéressante. Donc voilà, on a notre sauce, on a notre canard, on va badigeonner le canard avec tout ça, on va râper un petit peu de parmesan, rajouter quelques petits pignons de pain, convoquer toute la famille et puis je pense qu'on va passer...
Frédéric Ledoir, vous êtes végétarien ?
Je suis flexitarien, c'est-à-dire que je tends vers le végétarisme, j'y arrive pas totalement. J'aimerais être végétarien, j'aime trop de temps en temps un petit magret de canard. Ou un poulet rôti,
comme je vous comprends.
Ou un plateau de fruits de mer. Mais j'ai pu acheter de viande, je pense, depuis au moins 10 ans.
Ah oui.
Mais au restaurant, quand temps en temps, chez des amis, quand ça se présente, je craque encore. Voilà.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Allez, on se fait plaisir en revivant les meilleurs moments de l'équipée sauvage en compagnie de Mathieu Noël, d'Eva Rock et des journalistes d'Europe 1. Place maintenant au sujet de Benjamin Peter qui a misé cette semaine sur l'exploit sportif d'un Belge sous les regards amusés des passants, des cyclistes, des automobilistes et même des brebis. Allez, c'était ce lundi sur Europe 1 en présence de Michael Youn et Arnaud Ducré.
C'est le tandem le plus drôle de l'été.
Jeanne Masse et Jackie Quartz.
Non, de cet été 2020, Eva. Arnaud Ducré est à l'affiche de Divorce Club, le nouveau film de Michael Youn. Arnaud Ducré, vous nous avez fait l'honneur d'être avec nous pendant le confinement. Vous avez eu au téléphone. Ma question est simple. Est-ce que vous allez mieux ?
Ma fiancée a des triplés et puis mon fils. Jamais de la vie l'introspection, mais je m'en contrefous. Moi, je veux tourner des films, je veux voir mes copains, je veux faire des terrasses, je veux aller sur les Champs-Élysées, qu'il y a plein de monde. Moi, je déteste ce moment.
C'est on vrai vous remercie pour votre honnêteté. C'était, c'était vraiment notre invité le plus honnête pendant cette période du confinement.
Vous avez vraiment une voix de déprimé, je m'en rends compte.
J'ai très mal dormi pendant le confinement. Merci. Et j'arrive même plus à le dire, vous avez vu. Pendant le confinement, donc j'avais qu'une envie, c'était de... Non, mais moi, les mecs, toutes ces émissions-là, où t'entendais... Non, mais c'est bien, parce que je pense que c'est un moment où on peut se retrouver... Ta gueule, laisse-moi tranquille. Moi, je veux aller... Bah, la vie continue, c'est quoi cette histoire, voilà.
La vie continue aussi en ballon sauteur dans les Pyrénées. Benjamin Peter, vous êtes en ligne avec nous ?
Oui.
Il y a quelques jours, un Belge a décidé de gravir le Tournalet... Pas à vélo.
Mais non, avec donc ce ballon qu'ont les enfants, vous savez, au-dessus de deux d'accord. poignets, et pour avancer, vous poussez sur les jambes. Et pour traverser le jardin, c'est plutôt facile. Voilà. Mais Glenn Valentin, il n'aime pas vraiment ce qui est facile. Lui, donc, il est kiné installé à Pau, et il s'est dit qu'il allait grimper ce col mythique à cheval sur le ballon, sauf que déjà en vélo, bah, l'exploit est colossal. C'est plus de 18 km,
et
à 7,5% de moyenne. Ah ouais. C'est même 10% dans les deux derniers kilomètres. Pour y être allé plusieurs fois, on croise toujours quelques cyclistes et ceux qui parviennent en haut sont vraiment des costauds. Donc, je vous laisse imaginer en ballon sauteur. Mais ce qui m'expliquait, c'est que le plus difficile, c'était finalement de garder le moral parce qu'on n'a pas vraiment la sensation d'avancer.
S'il y avait une moyenne de 1,5 km par heure sur le Tourmalet, donc c'est pas beaucoup. Parce que chaque kilomètre, il y a un panneau. Et parfois, on voit le panneau déjà de... 200 mètres ou 300 mètres d'avant, mais on rapproche tellement lentement que c'est démoralisant.
Pardon, on ne se moque pas.
Ils sont malades, les mecs.
C'est un beau défi. Hein. Du coup, il a réussi sa montée en combien de temps ?
Et ben, il a mis 11 heures.
Oh mon Dieu !
Il a même crevé à 700 mètres de l'arrivée.
La tuile.
Heureusement, sa voiture balai en avait prévu trois autres. Donc, il me disait qu'il était même étonné que son ballon ait tenu aussi longtemps.
Une pensée, donc... Benjamin, pour la personne qui est dans la voiture balai, qui doit être sa femme.
Qui l'a suivi tout le long.
Pendant 11 heures.
Et comme dans le Tour de France, donc on change de monture et on repart. Donc, 11 heures avec des gens qui l'encourageaient régulièrement, mais avec des douleurs terribles dans les jambes.
Ah, tu m'étonnes.
Notamment aux ischio-jambiers. Il m'expliquait que les premières douleurs sont apparues au deuxième kilomètre. Donc, arrivé en haut, 16 km plus loin, il n'en pouvait plus. Il a dû faire des pauses régulièrement.
Presque toute la montée, j'ai fait à peu près 120 sautes et puis je devais faire des étirements et souffler un peu. Mais les deux derniers kilomètres, je devais m'arrêter tous les 20 ou 30 sautes parce que j'avais tellement mal partout. C'était vraiment l'enfer. J'ai mis 2 heures encore pour les... pour les finir.
Je crois que j'avais une question à vous poser, mais je crois que Michael a la même. Non, vous vouliez intervenir, Michael.
Pourquoi
précisément ma dernière question.
Pourquoi vous lui avez demandé, Benjamin?
Exactement.
Pourquoi?
Et bah déjà pour l'exploit, parce que je pense que personne n'y avait pensé avant. Du coup, on peut imaginer qu'il détient le record de l'ascension en ballon sauteur. Et puis parce que pendant le confinement, comme Arnaud Ducré, il tournait en rond, comme nous tous, et il s'est dit que lorsqu'il retrouverait la liberté, il voulait faire quelque chose pour une bonne cause, et donc il fait pour l'association Petit Prince,
voilà,
qui réalise, vous savez, rêve des enfants malades.
On comprend mieux.
Il s'est dit que son défi, ça avait quelque chose d'un peu enfantin, donc ça collait bien finalement avec l'esprit de l'association. Il invite d'ailleurs à continuer à faire des dons sur le site de Petit Prince. Et Glenn, il n'a pas l'intention de s'arrêter là, puisqu'il a un nouveau projet.
Maintenant, il va redescendre le Tourmalet avec son ballon et il est donc décédé.
Non, il doit traverser les Pyrénées d'est en ouest à dos de licorne.
Hein
oui, oui. Alors, il n'a pas voulu m'en dire plus, mais il m'assure qu'il a des contacts avec un élevage de licorne, donc je lui fais confiance. Le gars est quand même recordman du monde de l'ascension du Tourmalet en ballon sauteur, c'est pas n'importe qui.
Il est visiblement issu de cette partie de la Belgique où le cannabis est dépénalisé. Clairement.
En tout cas, il a de l'humour. Il a beaucoup de l'humour.
Il
a fait, non.
C'est vrai.
Il va remonter tout en vélo sans sel, là.
Il a beaucoup d'humour et beaucoup de jambes.
Merci beaucoup, Benjamin Peter. Si vous ne décrochez pas le prix Albert Londres avec ce sujet, franchement, c'est à n'y rien comprendre.
16h, 18h,
l'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël pour conduire cette équipe est sauvage, ce sont les meilleurs moments, il est 17h28. Alors dans le duel qui oppose sa complice Eva Rock à l'invité, Emmanuel De Vos n'a pas échappé au vrai faux sur les odeurs. Et oui, on rappelle que la comédienne est à l'affiche du film de Gregory Mine, Les Parfums. Écoutez, c'était ce mercredi sur Europe 1.
Se cultiver dans la joie et la bonne humeur, vous écoutez l'équipe est sauvage. Se cultiver mais aussi découvrir, grâce aux confidences de nos invités vedettes, les coulisses de leur métier. Par exemple, pour tous ceux qui iront voir Divorce Club le 14 juillet prochain, ils y découvriront, écoutez bien Mathieu Charrier, ils y découvriront un personnage attachant, un lémurien facétieux. Vous vous souvenez de ce lémurien dans le film, hein ? Mais comment ça s'est passé sur le tournage avec ce lémurien ? Voici notre rubrique « Secret de tournage ».
À la base, on devait avoir soit un animatronique, soit un animal fabriqué en 3D. Et le lémurien n'est pas dressé, l'animatronique c'est trop cher, la 3D, n'y pensons même pas. Et le premier jour de tournage avec le lémurien, le directeur de production arrive avec une peluche de chez Toys R Us. Mais je pensais que c'était une vanne. Et puis finalement, on s'en est vraiment servi en fait. Alors la peluche, on lui avait rentré une perche télescopique de piscine dans l'anus pour la faire avancer. Et après, on l'efface, mais bon, voilà.
Et voilà un petit secret de tournage. La magie du cinéma. Alors, Emmanuel De Vos, vous êtes à l'affiche du film Les Parfums de Gregory Mann qui sort aujourd'hui. Rassurez Eva, à aucun moment, votre partenaire Grégory Montel n'a été remplacé par une peluche Toys R Us. C'est bien le vrai Grégory Montel tout le temps. Est-ce qu'il est aussi...
J'ai cru que vous alliez aller plus loin.
Oui, non, aussi.
Je me suis arrêté. Pile à la limite, vous êtes sur le rebord de la falaise. Non, un mot de Grégory Montel, parce que c'est vrai que vous êtes fasciné par lui, Eva.
C'est un très bon acteur.
C'est un très bon acteur, mais qui a en plus un capital sympathie. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas une seule seconde que ce mec-là soit pas sympa dans la vie.
Et pourtant...
Il est odieux.
C'est une ordure.
Une merde humaine. Moi aussi, quand je l'avais vu dans 10%, c'était mon agent préféré dans série. Ouais. Il a un charme fou, c'est vrai. Il est vraiment très, très agréable en plus.
Ça fait partie de la décision de faire un film. Vous savez tout le casting avant d'accepter, avant de donner votre décision pour un premier rôle ou ça se passe pas toujours comme ça ?
Là, moi je suis arrivée en deuxième hein, parce que Grégory avait déjà tourné avec Grégory. Montel avait déjà fait un premier film qui était formidable qui s'appelle L'air de rien avec Michel Delpech et Grégory Montel. Et donc, j'étais ravie de les rejoindre pour cette histoire.
Vous avez une particularité, vous n'êtes vraiment pas langue de bois, Emmanuel De Vos, dans le milieu du cinéma. Vous dites, le cinéma est un drôle de milieu, tout le monde se jalouse, on n'aime pas le succès, il ne faut pas être un loser, ni trop briller. Ça remonte sans doute à l'esprit des Lumières. Quand je dis ça, j'ai l'impression qu'on parle du film Ridicule avec Patrice Lecomte. Il y a ça dans le cinéma français encore aujourd'hui, en 2020 ?
Un petit peu moins, mais j'ai été souvent choquée, mais... assez tôt, je me rappelle de Vanessa Paradis quand elle avait fait Noce Blanche, ou après Marion Cotillard. Qu'est-ce que j'ai pu entendre ? Tout ça parce que c'est une fille qui travaille plus que les autres, qui a une ambition raisonnée, quoi, mais qui a l'aune de ses rêves, et je trouve ça très beau. Mais qu'est-ce que les gens sont... Ils sont par moments, ils peuvent être vraiment atroces quoi, dans ce milieu, ouais, effectivement. On n'aime pas le succès en France, hein. Mais ça vaut pour le cinéma comme pour tous les milieux. Hein. C'est très étrange, ce masochisme français.
Comment on fait pour se protéger de tout ça ?
Bah, je ne sais pas, parce que moi, personnellement, je ne suis pas impactée. Hein, mais
comment ça, vous n'êtes pas impactée ? Vous, avec la carrière que vous avez, j'imagine que certains ont peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, ou non ?
Non, parce que je suis très discrète.
C'est ça le secret.
Oui. je suis très discrète. Ou alors, je ne vois rien. Je suis peut-être aveugle aussi. Hein, et sourde, en plus. Et sans odorat.
Bah, du coup, quelle actrice !
Quelle actrice, vraiment ! Non, mais ça, c'est... Les garçons, surtout. Les acteurs, entre eux. Mais ils sont effrayants.
Ah, pire que les filles !
Ah, mais les filles, on se soutient énormément. Hein.
Tandis que les
garçons, quand
j'ai
un coup dur, j'appelle Sandrine Kiberlin ou Karine Viard. Hein. Vraiment, hein. C'est les deux personnes qui peuvent le plus me remonter le moral. Mais les acteurs entre eux, c'est vraiment la cour de récréation.
Ouais. Quand j'ai pas le moral, j'appelle Mathieu Charrier ou Eva Rock, ce qui fait que ma carrière n'est pas au même niveau que la vôtre. Ne décolle pas.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Dieu que l'attente fut longue. Près de 4 mois, nous n'avons pu franchir le seuil d'une salle de cinéma. Ça y est, les salles ont enfin rouvert. Un soulagement pour beaucoup d'entre nous, même si au sein de l'équipe, on évite le sujet. Rapport au précédent Mathieu Charrier, quand notre expert cinéma avait posé la question qui fâche en présence d'Eva Rock, célibataire depuis 2012.
Est-ce qu'on aime aller au cinéma seul ou accompagné ?
Y en a qui n'ont pas le choix, hein, pardon.
même seul, même tout seul, allez voir Les Parfums. Très beau film de Grégory Mann avec Emmanuel de Beauté, mais c'est aussi bien tout seul.
Bien sûr.
C'est vraiment un très beau film. C'est qui vous a beaucoup plu, Eva.
Ah, moi, j'ai adoré. Et puis, je dois le dire, alors, je suis fan d'Emmanuel de Vos. Tant pis, ça fait flagornerie, mais c'est pas grave.
Je connais peu de gens qui n'aiment pas Emmanuel de Vos.
Et je suis fan de Grégory Montel aussi. Donc, quand vous avez le duo réuni, voilà, c'est bonheur absolu. Et Sergio Lopez en plus. Donc, comment vous dire, Sergi.
Parce que Sergio Lopez, c'est un autre acteur qui a beaucoup moins bien réussi que Sergi.
Hein,
beaucoup moins, beaucoup moins.
Voilà. Donc, les trois, c'est parfait. J'étais très heureuse. Grégory Montel, pour ceux qui ne voient pas forcément qui c'est, il est dans 10%, notamment la série de France 2.
C'est un des agents. Et on peut dire aussi que c'est un peu le fils que n'aurait pas eu, ou peut-être
le fils qu'il a eu de André Manoukian.
C'est possible.
De Daniel Auteuil.
Ah, de Daniel Auteuil.
Et aussi sur la voix.
Il ressemble incroyable. Il a la voix, le même accent, parce qu'il vient du même coin. Vers Avignon.
Ah, c'est vrai.
Ça. Ouais, ouais. C'est incroyable.
Vous connaissez
un très bon imitateur de Louis de Funès, si jamais vous l'invitez.
Ah, bon, ça, c'est un trio.
Voilà,
merci de me.
Ça, c'est bien.
Ah,
voilà.
Très bien, surtout je le lancerai là-dessus.
Ouais, surtout,
on dira pas que c'est lui.
Et voilà. Non, mais comment vous savez, on est bien informé. Face à vous, Emmanuel, vous avez senti son nouveau parfum, Brume d'Aioli, dès le hall d'entrée d'Europe 1. La douceur du laurier rose, la puissance de l'enchoyade, une très belle création dont elle vous donnera un échantillon tout à l'heure. Mais là,
vous êtes servi.
Tout de suite.
C'est rien,
bon, là c'est plutôt léger aujourd'hui. Eva Roth va surtout vous donner un échantillon de son érudition qui est, vous allez voir, vertigineuse. C'est l'heure du quiz. En hommage direct au film Les Parfums, nous allons faire un vrai faux sur les odeurs. Les Parfums, on peut dire que cette émission est extrêmement bien pensée. C'est parti.
Très original.
Eva Roth.
Oui.
Ananas.
Oui.
Signifie parfum des parfums. Vrai ou faux?
J'ai jamais entendu ça. Non, je dirais non.
J'aime bien,
le
cheminement de votre réflexion.
Non, je trouve ça très bizarre.
Vous trouvez ça bizarre? Eh bien, pourtant, c'est vrai. De toute façon, c'est vrai. Parce que tout simplement, vous ne connaissez pas toutes les langues de notre belle
Patrie.
En Tupi Guarani. Moi, personnellement, souvent, je m'exprime en Tupi Guarani avec des amis de passage.
Dans quel pays,
une langue d'Amérique du Sud.
Ah oui, d'accord. Ouais.
On n'a pas plus de précision sur le pays. C'est l'Amérique du Sud au sens très large. Eh bien, en Tupi Guarani, on dit nana, nana, soit parfum des parfums. C'est même pas nana.
Non, mais vous n'avez pas le bon accent, je pense.
Ça doit être ça. J'ai pas assez travaillé mon rôle en amont. Petite info bonus pour vous.
Oui.
Sachez que si vous salez un ananas, il sera encore plus sucré. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inimaginable et surtout très utile.
Eh bien oui, je
vous coucherez vraiment
c'est
moins
ça
bête.
Rien, donc.
Mais non, mais si, ça peut être intéressant en cuisine, j'imagine. Et vous êtes un grand chef, vous tentez un truc,
on
vous mettez du sel.
On ne met pas d'ananas sur une pizza, surtout.
Je ne vois pas le rapport, mais effectivement,
non,
c'est
mais
une aberration.
Ouais.
Emmanuel De Vos, dans le film Les Parfums, vous jouez à un nez. Eh bien, la compagnie aérienne Delta Airlines fait également travailler à un nez pour que les fauteuils aient tous la même odeur à la sortie d'usine. Vrai ou faux?
Vrai.
Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'est un piège. Par contre, à la NASA, oui. Depuis plus de 40 ans, George Aldrich sent tous les objets qui seront à bord des navettes américaines pour que les habitacles aient une ambiance olfactive agréable.
J'ai étonné que ça ne soit pas le cas dans les avions.
Enfin, vous savez, en même temps, ce quiz n'est pas préparé avec un sérieux non plus irréprochable.
Oui.
Il est possible que certaines compagnies aériennes,
oui,
on pense notamment
oui.
à Emirates ou Qatar, aient effectivement prévu quelque chose d'olfactif dans leurs avions. Eva Roth et Emmanuel De Vos. Une question, trois propositions, vous répondez toutes les deux. Qu'est-ce que le pétrichor? Le liquide que projette la moufette rayée, non seulement elle peut l'envoyer à plus de 6 mètres et ça sent à près d'un kilomètre à la ronde. L'odeur que prend la terre après la pluie, ou l'odeur que prend la pluie après la terre, ce qui ne veut rien dire.
La 2,
vous êtes sûr? C'est une double bonne réponse collégiale. L'odeur de la terre
Farah,
après la pluie.
Merci Farah, qui a hoché la tête quand vous avez parlé d'autres moufettes complètement débiles. Là. Ouais.
C'est un liquide huileux sécrété par certaines plantes. Il imbibe les graines des végétaux pour mieux supporter les périodes de sécheresse.
Pourquoi on aime tous cette odeur? Enfin, quasiment tous.
C'est
incroyable.
C'est une
alors
très
que,
odeur.
Comme je le dis dans le film, l'odeur de l'herbe coupée, c'est une odeur de massacre.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. C'est
massacre
l'odeur de des molécules qui se défendent contre une attaque.
Alors, la suite est moins poétique. Emmanuel De Vos, l'actrice Gwyneth Paltrow, a sorti une bougie parfumée qui sent bon. Elle a dit « Ça sent mon odeur après un footing. » Vrai ou faux?
Faux.
C'est faux, c'est pire.
C'est pire que ça, ouais.
Ah, vous savez Ah oui, la bougie existe. Ah, bah, je vois qu'on est bien informé. Madame a bien bûché.
Oh, bah, on lit ces petits journaux féminins.
Effectivement, Madame va chez le coiffeur. La bougie vaut 63 euros et dessus, il est écrit « This smells like my vagina
voilà. ».
C'est une bougie qui a donc le parfum du vagin de Gwyneth. Sachez que ça sent un mélange de sel, de bergamote et de géranium. Gwyneth a décidément tous les talents. Et Varrock, enfin, il existe une fleur maroilles. Elle est surnommée ainsi.
Horreur.
Elle est surnommée ainsi. Je vais vous l'offrir
pour, notre, mais non, mais pour
la dernière. Pour la dernière,
mais
je vous l'offre. Elle est surnommée ainsi car elle sent le célèbre fromage à pâte molle. Vrai ou faux?
Si vous voulez me l'offrir, c'est que ça existe.
Me serais-je trahi en lisant la question?
Non, 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 c'est faux. C'est pas possible qu'il y ait une fleur qui sente le maroilles. C'est la nature ne va pas faire un
truc pareil.
Réfléchissez
bien, j'aimerais tellement que vous gagniez un quiz pour une fois, Eva.
C'est faux. Non, non, c'est vrai. Vous croyez?
Ouais.
Non, non, votre réponse?
Non, c'est faux.
C'est faux.
Emmanuel, vous avez essayé de me piéger. Ouais.
J'aime bien qu'un invité comme ça essaie de vous déstabiliser. Par contre, il existe une fleur cadavre, surnommée ainsi à cause de son odeur pestilentielle. On l'appelle aussi phallus de titan, en raison de sa forme, Eva. Et elle peut mesurer jusqu'à 244 cm. Je vous montrerai des photos. Le gorille est battu à plat de couture. Qui remporte le quiz?
C'est Emmanuel DeVos. Arrêtez de faire l'innocent. De
c'est
me dire
Emmanuel
qui,
DeVos.
Qui va gagner?
À la surprise générale, qui remporte ce quiz? Elle a eu un point bonus pour son état d'esprit, voilà. Particulièrement vicieux vis-à-vis des dames. J'ai particulièrement apprécié. C'est Emmanuel qui remporte le quiz.
16h, 18h.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
Europe 1.
16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Avec toujours Mathieu Noël, Eva Roque et les journalistes d'Europe 1 pour le meilleur de l'équipe sauvage. Dans un instant, Mathieu Charrier pour évoquer les Césars en présence de l'invité d'honneur, Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris. Et le 3 mars dernier, il nous invitait à découvrir les coulisses de la justice et ses multiples secrets de fabrication.
Avec aujourd'hui, maître Emmanuel Pierrat, venu nous présenter un ouvrage fait pour nous, La justice pour les nuls. C'est le principe qui sous-tend cette collection pour les nuls chez First Edition. C'est vulgarisé pour que même quand on n'a pas un bac plus 5, on puisse suivre. Mais en même temps, c'est parfaitement rigoureux, hein, il faut le dire à nos auditeurs.
C'est toute la force de la collection. J'ai écrit 5 volumes, moi, dans les nuls. La justice pour les nuls est le premier que j'avais fait. C'est la 3e édition. Je pense que ça peut être enseigné dans une fac de droit, découpé par un prof de droit. On n'a rien à y redire. On peut trouver le ton un peu rigolo. Il y a des blagues, c'est un peu de l'humour potache
par
moment.
Mais à part ce ton-là, le fond...
Pour dédramatiser le sujet, mais le fond est parfaitement sérieux. D'abord, c'est le contraire du petit livre facile, mal écrit ou avec une vulgarisation où on trompe les infos. Il y a à peu près tout. Il est très à jour parce qu'il y a des grandes réformes, notamment en janvier dernier, on a inventé quelque chose qui s'appelle le tribunal judiciaire. Avant, on parlait de tribunal de grande instance, tribunal d'instance. Tout
c'est
ça
fini,
a disparu.
Ça ah bon.
Les médias ont découvert, mais quasiment le lendemain d'ouverture du nouveau tribunal, que tout avait changé. Et c'est les journalistes police-justice passent leur temps à m'appeler en me disant « Comment est-ce qu'il faut que je raconte ça? C'est quoi? C'est où? Ça se passe comment ?» Moi, je dis, lisez le livre que je vous ai envoyé pour Noël, les gars. Vous l'avez eu gratuitement sous le sapin, faites votre boulot. Lisez, j'explique.
Alors, prenons un exemple concret. J'aimerais me débarrasser d'un membre de l'équipe. Au hasard, mettons Mathieu Charrier, qui par son talent, son charisme, me fait de l'ombre. Voilà, j'ai ça. Contre lui des documents assez accablants, notamment des enregistrements audio où il parle de ses collègues sans tabou.
Une femme bien en chair, un homme très étrange, limite pervers, un nain aussi, qui prend plaisir à manger du jambon blanc toute la journée.
Qu'est-ce que vous plaidez? La diffamation? Qu'est-ce qu'on peut faire contre Mathieu Charrier? Je ne sais pas, mais à mon avis, on peut l'attaquer. Justement, Charrier, profitons du fait qu'on soit encore en bon terme pour évoquer cette 45e soirée des Césars vendredi, salle Playel. Vous y étiez.
Tout à fait.
Comment se fait-il que Roman Polanski soit arrivé en tête des votes?
Déjà, vous pouvez nous l'expliquer. Déjà, ce qu'on croit comprendre, parce que vous savez que l'Académie ne donne jamais le résultat des votes précis, donne juste le taux de participation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle depuis 2016 au César, vous ne pouvez pas cumuler meilleur réalisateur et meilleur film. Parce que Timbuktu en 2015 avait tout raflé, les gens avaient gueulé, ouais, pourquoi c'est pas un film qui rafle tout, c'est pas normal, et puis la meilleure réalisation de film, ça revient à peu près au même. Donc, il y a une règle en 2016, vous ne pouvez pas avoir les deux, et c'est meilleur film qui prime. On considère que c'est un petit peu plus prestigieux que meilleur réalisateur. Donc, si vous avez meilleur réalisateur et meilleur film, on vous donnera meilleur film, mais pas meilleur réalisateur. Et ce qui semble se dessiner, au vu de tous les prix qui sont remis avant cette cérémonie, c'est-à-dire le prix des distributeurs, le prix des producteurs, etc., tous ces prix-là étaient revenus à l'Adjli et ses Misérables. Donc, ce qu'on croit comprendre, c'est qu'en fait, l'Adjli avait tout raflé, même le meilleur premier film, que vous ne pouvez pas non plus cumuler avec
bien
meilleur
sûr,
film.
Ce qui est
donc,
logique
meilleur
quand même.
Premier film est revenu à Papicha. Mais ce qu'on croit comprendre, c'est que dans les votes, l'Adjli avait tout raflé, sauf qu'on ne pouvait pas lui donner et meilleur film et meilleur réalisateur. Donc, on est passé au deuxième, et c'est là que M. Polanski arrive et qui rafle le meilleur réalisateur, et alors qu'on voit ce que ça a donné.
Alors, à l'opposé, Adèle Haenel n'a rien reçu.
C'est ça, moi, je trouve qui est intéressant. C'est qu'il ne faut pas se leurrer. Cette soirée, c'était devenu un duel. C'était Polanski contre Adèle Haenel. Et ce que vous notez, c'est que Polanski, il a eu 3 Césars, dont le meilleur réalisateur.
Et elle, rien.
Elle, rien du tout. Et surtout, le film, a eu juste un César pour la meilleure photo. Donc, clairement, ça veut dire que les votants de l'Académie ont voulu faire gagner Roman Polanski. Pour moi, vous prenez une position politique.
Est-ce qu'il fallait pas le retirer complètement des votes?
Ça s'appelle de la censure, sur quel critère?
Vous pouvez pas... bien, on peut tout reprocher à Polanski.
Sur le même critère que celui qu'on utilise là, qui est celui de la morale.
Non, parce que...
Justement, pardon, malheureusement, moi j'aimerais beaucoup que certains partis politiques ne puissent pas concourir aux élections municipales. Et pourtant, ils ont le droit de le faire. Mais j'ai le droit de ne pas voter pour eux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. En droit, dans une démocratie, avec un vote intelligent et citoyen.
Bien sûr, mais quand vous, par exemple, vous critiquez Foresti, elle a aussi, à ce moment-là, le droit de partir.
Oui, non, ce que je lui reproche, c'est qu'elle n'est pas là comme bénévole ou pour assister. Adèle Haenel, elle est là dans son rôle de cinéaste, elle est là dans son rôle d'actrice, elle est là invitée de femme. Elle n'est pas payée, pardon, pour être là. Elle est là pour éventuellement recevoir une récompense. Elle ne la reçoit pas. Et par ailleurs, Polanski la reçoit. Elle s'en va, c'est légitime. Florence Foresti, elle fait un boulot. Vous démissionnez de votre boulot alors que vous savez sciemment que les conditions dans lesquelles vous le faites ne vous plaisent pas. Donc, pardon, vous n'êtes pas à l'article de la mort. Florence Foresti ne me semble pas une ouvrière privée de droit et qui a absolument besoin de travailler. Donc, elle pouvait refuser le job. Elle savait que c'était Roman Polanski qui risquait d'en avoir un. Se trouve illégitime d'accepter le job et de casser, en quelque sorte, la soirée.
Si jamais Florence Foresti est attaquée par Canal+, ou pas rémunérée à la hauteur de son cachet initial parce qu'elle est partie avant, vous refusez de la défendre ?
Oh, je ne veux pas dire que je refuse pas la défendre, moi je suis avocat.
Là je vous retrouve, Maître Pierre.
Ah, bien
sûr,
blague.
C'est très important, on ne sait jamais. Est-ce que c'est la mort des Césars ou est-ce que ça va être...
Après, ils vont se réinventer. Il y a peu de chances qu'elle m'appelle. Enfin,
c'est
droit,
vrai. La question peut se poser parce qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est que vous avez un monde du cinéma qui est complètement divisé et que les Césars, pour se réinventer, il va falloir à un moment donné qu'ils se retrouvent. C'est-à-dire que refaire un nouveau collège de votants, refaire un nouveau conseil d'administration, etc., comme dans un parti politique, il faut que tout le monde s'entende et se retrouve. Aujourd'hui, clairement, vous avez l'impression qu'il y a un tel schisme que ça va être très compliqué. Et c'est pas exclu que les Césars mettent 1 an, 2 ans ou 3 ans pour à renaître de leur cendre.
Emmanuel Pirat, le dernier mot là-dessus?
Non, il était temps parce que par ailleurs, moi je suis allé au César un bon nombre de fois. Quand il n'y avait pas de polémique, c'était déjà chiantissime. Oui. Donc, il y a un moment, il fallait qu'il se passe quelque chose pour que ça s'arrête. Parce que là, vraiment, c'est pas possible.
La boucle est bouclée, mais c'était chiantissime parce que les Césars, déjà à l'époque, n'arrivaient pas à faire la jonction entre le cinéma populaire, le cinéma d'auteur.
Et donc,
vous mettez sur scène des comiques pour faire un peu de gaudriole tout en les récompensant pas parce que vous considérez que le cinéma. Et donc, en fait, les Césars, ça fait des années qui sont très embêtés.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël pour conduire cette équipe est sauvage, sa complice Eva Rock. Et c'est de la toute dernière séquence de ce meilleur de l'équipe est sauvage. On va découvrir dans un court instant le sujet d'Alain Siroux. Cette semaine, il nous a raconté comment l'éruption d'un volcan en Alaska avait favorisé la naissance de l'Empire romain. C'était donc le 26 juin dernier, en présence de l'invité d'honneur, Frédéric Lenoir.
Frédéric Lenoir et notre équipier sauvage cet après-midi. Ensemble, on feuillette son nouveau livre « Vivre dans un monde imprévisible », véritable manuel de résilience. Qui dit résilience dit introspection, retour en soi. Est-ce que la méditation devrait être enseignée à l'école? On entendait tout à l'heure un cours sur le chômage. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de donner des cours de méditation?
Alors moi je le fais, c'est-à-dire que j'ai créé une association qui s'appelle SEV, ça veut dire Savoir Être et Vivre Ensemble. On propose 2 choses aux enfants. On propose un temps de méditation, c'est-à-dire un temps d'introspection, de moments où ils sont calmes, où ils calment le mental, ils arrêtent de penser à tout pour essayer d'être juste présent à ce qui est. Et puis c'est suivi d'un atelier de philo. Et donc, on fait des débats philosophiques et on ne transmet rien. C'est-à-dire qu'on dit aux enfants, voilà une question, par exemple, mieux vaut-il être mortel ou immortel? Et on dit aux enfants, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, c'est les enfants qui parlent. Ce qui fait que la méditation les aide à s'apaiser. Et c'est extraordinaire, les enseignants nous disent, mais ça change tout. Après, il n'y a plus besoin de faire de la discipline.
Oui, ils sont plus efficaces après.
Ah oui, c'est sûr. Et puis l'atelier philo leur permet de s'écouter, leur permet de débattre ensemble, leur permet d'exprimer leurs propres pensées, ce qu'ils ne font jamais. On leur dit jamais, toi tu en penses quoi? On leur
en
transmet.
France.
En France, voilà.
Parce que
et donc
ailleurs,
là, vraiment, on le développe. On a formé 4000 personnes, des animateurs, des enseignants, mais aussi des animateurs qui vont dans les classes quand les enseignants n'ont pas le temps de se former. Et on essaie de transmettre ces deux choses qui me semblent essentielles, complémentaires de ce qui se passe. Évidemment, il faut aussi apprendre la grammaire, les maths et tout. Mais ça, ça manquait beaucoup dans les écoles et on essaie de le développer à travers cette association Sève.
Vous dites aussi, Frédéric Lenoir, on en a parlé tout à l'heure, que pour supporter la vie, l'humour est important. Ça tombe bien, l'humour est une des plus grandes forces d'Alain Siroux, notre troisième concurrent cet après-midi, le Gad Elmaleh de l'astrophysique. Parmi ses dernières punchlines les plus fortes, celle-ci, survenue durant la chronique culinaire.
La texture du homard avec le pain brioché.
Ça marche bien.
Pure merveille. On ouvre le pain, une petite feuille de salade à l'intérieur, on pose la sauce.
Avec une pancarte marquée Homard Mathieu.
Bravo, bon. Bien joué.
Voilà.
Alors, Alain, aujourd'hui, vous nous parlez, si j'ai bien compris, d'un volcan en Alaska dont l'explosion a eu des conséquences en Italie, le tout il y a 2000 ans.
Oui, et pour ça, on va remonter au 15 mars 44 avant Jésus-Christ. À 11h du matin, Jules César est assassiné par exactement 23 sénateurs et son fils Brutus, d'où le fameux « toi aussi, mon fils », et qui plonge la République romaine dans un chaos total pendant une quinzaine d'années, jusqu'à l'émergence de l'Empire romain. Beaucoup d'historiens se sont posé la question de savoir ce qui s'était passé, non pas autour de Jules César à ce moment-là, mais dans l'environnement de la Méditerranée pendant ces 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des choses très bizarres qui ont été observées. D'abord, le soleil a commencé à prendre des couleurs bizarres. Il y a eu des halos dans le ciel. Il s'est mis à faire extrêmement froid. Tout à fait, des changements particuliers dans les températures, dans la pluviométrie, qui ont déclenché une baisse des récoltes de façon extrêmement importante, donc de grandes famines, des maladies, bref, un chaos qu'on n'avait pratiquement jamais vu à Rome depuis toujours, qui a précipité le chaos politique et qui, 15 ans plus tard, parce que ça a duré quand même longtemps, va sceller en fait le destin de la République et amener l'empereur Auguste sur le trône. Que s'est-il passé ? Les historiens se sont posé la question. Alors, ça c'est la première étape. La deuxième étape s'est passée il y a finalement assez peu de temps. C'était en 2019 avec des scientifiques qui faisaient des carottages, donc qui prélevaient des carottes de glace en Arctique. Et là, ils ont découvert une strate avec plein de poussière volcanique. Et donc, ils ont évidemment fait une datation. Et ils ont découvert que c'était une couche de cendres très très bien conservée. Donc, on a découvert à ce moment-là qu'un volcan, qui s'appelle le volcan Okhmok, que personne ne connaît ici, bien sûr, qui a explosé en Alaska, avait fait des dégâts absolument considérable.
À l'autre bout de la Terre.
Alors, à l'autre bout de la Terre, surtout à l'autre côté, Rome est très très loin. Et à ce moment-là, les scientifiques se sont mis à modéliser ce qui s'était passé. Et ils ont découvert que les deux années suivant l'éruption de ce volcan ont été parmi les plus froides jamais enregistrées dans l'hémisphère nord ces derniers 2500 ans. Mais vraiment, de façon extrêmement importante, 7 degrés en dessous des normales, les précipitations 400% de plus qu'habituellement. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est que il y a eu une explosion volcanique extrêmement puissante au moment où on assassinait Jules César, que dans les années qui ont suivi, les conséquences ont été catastrophiques. Alors, bien sûr en Italie, mais aussi en Égypte, où on a découvert que les crues du Nil n'étaient plus du tout les mêmes. Il y a eu des famines, il y a eu des maladies, et tout ça a précipité finalement la République dans le chaos, jusqu'à amener le plus fort des dictateurs, qui est Jules César. Conclusion de cette affaire-là, tout est en lien. C'est-à-dire qu'un volcan qui explose en Alaska a des conséquences géopolitiques sur le bassin méditerranéen. Et ce n'est pas le seul exemple. On a des volcans, bien sûr, mais aussi des tsunamis. On a du changement climatique qui vont affecter dans l'histoire, bien sûr, Rome, mais aussi les Incas, la civilisation minoenne en Crète, d'où la fameuse légende qui parle de l'Atlantide qui aurait été engloutie par une
vague. Ça serait la question. L'Atlantide existe-t-elle, oui ou non ? Oui ou non.
Et je vais conclure par le Laki. Et le Laki, vous savez, c'est une chaîne de volcans islandais qui a explosé en 1785.
Non, la Révolution française.
Il y a eu des grêlons, il y a eu une destruction de
récoltes. Les Islandais sont responsables. Ouais.
Destruction de récoltes de blé, famine, protestation, augmentation du prix du pain, mécontentement, Révolution française. CQFD.
Peut-être que le coronavirus fera perdre des élections à Trump, on ne sait pas.
Tout est lié. Comme quoi, il y a parfois des événements heureux. Merci beaucoup Alain Sirou, c'était comme d'habitude. Passionnant.
Europe 1, 16h, 18h.
L'équipe est sauvage.
Et c'était la toute dernière de l'équipe est sauvage, notre compilation du week-end. Merci à Mathieu Noël, Eva Rock et les journalistes d'Europe 1 pour cette saison rieuse et informative. Dans un instant, c'est Wendy Bouchard pour le Grand Journal du Soir.